BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Thomas Asportas.
Bientôt 18h sur BFM Business, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans Good Evening Business, on est en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Eh bien les partenaires sociaux ne sont pas morts, vous le savez ils ont perdu la main sur l'assurance chômage, mais ils se sont mis d'accord aujourd'hui sur le CETU, le fameux compte épargne-temps universel. Sans le MEDEF et la CPME, cela dit évidemment ça a son importance, qui ont refusé de participer à la discussion, on va vous expliquer tout ça ce soir dans Good Evening. Sinon ça y est, les députés européens ont approuvé, c'était à la mi-journée, le nouveau pacte de stabilité, les fameuses règles budgétaires européennes. Est-ce que la réforme est réussie ou est-ce qu'elle loupe le coche? On posera la question à nos experts à partir de 18h30 et puis on va leur demander aussi où va la voiture électrique parce qu'on a tous les jours des informations qui sont de plus en plus contradictoires. D'un côté, on voit que les ventes reculent et Tesla, d'ailleurs, ce soir, va publier de très mauvais résultats. Et puis de l'autre, c'était ce matin, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que la croissance est toujours là et que le pari de la voiture électrique va réussir. Qui faut-il croire? Ça aussi, c'est une question qu'on pose ce soir à nos experts dans Good Evening. Et puis à 18h10 dans la grande interview, Edwige Chevrillon va parler tourisme et vacances malgré la grève qui s'annonce jeudi du côté du transport aérien. Edwige reçoit Jean-François Rial, le président fondateur de Voyageurs du Monde. Voilà le programme, c'est parti pour Good Evening, on est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et avant de développer tous ces sujets, on commence avec les résultats du premier trimestre. Le chiffre d'affaires, plus précisément, de Kering. Bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir Thomas.
Alors pas de surprise, c'est très mauvais. Kering avait annoncé la couleur le mois dernier en annonçant un profit warning. On a quand même plus de détails ce soir Pauline.
Oui, on connaissait la tendance depuis cet avertissement sur résultats publié le mois dernier. Pour l'ensemble du groupe Kering, maison mère de Gucci, les ventes sont en baisse de 10% au premier trimestre à 4,5 milliards d'euros, tirées vers le bas par des ventes en baisse de près de 20%, 18% en comparable précisément pour le navire amiral Gucci qui représente quand même la moitié du chiffre d'affaires total du groupe. Le chiffre d'affaires de Gucci s'établit donc à un peu plus de 2 milliards d'euros au premier trimestre. Il recule notamment sur la région Asie-Pacifique, n'est pas épargné par le ralentissement chinois qui pénalise globalement tout le secteur. François-Henri Pinault, le PDG de Kering, déclare ce soir que les conditions de marché, notamment en Chine, et le repositionnement stratégique de certaines des maisons, à commencer par Gucci, accentue la pression sur le chiffre d'affaires. Compte tenu de ce recul et de notre détermination à continuer d'investir sélectivement dans la désirabilité et l'exclusivité de nos marques sur le long terme, il anticipe une baisse significative du résultat opérationnel courant au premier semestre. Il anticipe un résultat de son résultat opérationnel courant de 40 à 45%. Au premier semestre par rapport à 2023. Voilà pour l'ampleur de la situation. Kering ne va pas bien. Ça se confirme. L'idée, c'est que ce groupe est en pleine transformation, une transformation qui est engagée depuis quelques mois maintenant. Mais comme nous expliquait une source proche du dossier, quand on est en pleine transformation, il vaut mieux avoir avec soi une accélération de l'économie plutôt qu'un ralentissement de l'économie. Et là, comme on est sur un gros ralentissement du luxe dans sa globalité, eh bien, ça pénalise d'autant plus Kering, qui allait mal et qui était en train de se redresser, qui est en train d'essayer de se redresser, qui se transforme, mais voilà, qui est doublement pénalisé aujourd'hui.
Mais comment, Pauline, très concrètement, comment est-ce que Kering espère se relancer et notamment sa marque phare Gucci?
Alors, la direction mise notamment sur la montée en gamme, une montée en gamme toujours plus vers le haut de gamme qui a été initiée, nous expliquons déjà depuis quelques mois. Mais voilà, il faut aller encore plus vite. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le groupe souligne que Bottega Veneta va bien, que Bottega Veneta a augmenté les prix à deux chiffres en moyenne, a augmenté le nombre de clients très haut de gamme. Voilà, visiblement, ça paye, cette stratégie de monter en gamme, et ça va probablement être le cas sur toutes les maisons. On voit qu'Yves Saint Laurent est en baisse aussi, les ventes d'Yves Saint Laurent sont en baisse. Finalement, le groupe est en croissance. Sur Bottega Veneta, en comparable, sur son activité lunettes. Voilà, donc il y a un gros chantier à mettre en œuvre. Monter en gamme, et puis le groupe s'est renforcé à plein de niveaux. Il a renforcé sa direction opérationnelle. Le PDG François-Henri Pinault est désormais accompagné d'un binôme de directeurs général délégués, Francesca Bellettini et Jean-Marc Duplex. Donc voilà, qui sont là pour l'accompagner au niveau opérationnel. On nous dit, une source proche du dossier nous dit que François Henri Pinault reste le capitaine à bord pour mener cette transformation, bien sûr. Le COMEX a été revu et a été musclé. Le conseil d'administration aussi est musclé. L'Assemblée générale a lieu jeudi et ce sera l'occasion d'arriver de nouvelles têtes avec des profils extrêmement solides pour mener à bien cette transformation, cette montée en gamme. Il va falloir du temps, il va falloir être patient, nous dit un bon connaisseur du groupe, qui mise en revanche sur cette montée en gamme et sur le long terme pour redresser la barre.
Bon, merci beaucoup Pauline Tadevin. Effectivement, on voit que les résultats sont tombés très bas à l'occasion de ce premier trimestre. Merci beaucoup Pauline. On poursuit 18h04 avec le bilan 2023 de la filière aéronautique. Là, vous allez voir, le décor est tout autre. Les chiffres ont été publiés ce matin par le GIFAS, la fédération du secteur, et la filière se porte toujours aussi bien. Un chiffre d'affaires en hausse de 9%, des carnets de commandes pleins et une année 2024 qui s'annonce tout aussi bonne. Mais il y a quand même une seule ombre au tableau, des problèmes de riches, vous allez me dire. Le secteur doit encore et toujours composer avec ces problèmes de supply chain, de pénurie. Jean-Baptiste Huette.
L'aéronautique française est sur un fil. Toutes les entreprises du secteur, petites ou grandes, font face à des difficultés d'approvisionnement. Titane, acier, aluminium, on cherche l'équilibre en permanence, explique Guillaume Faury, le patron du GIFAS et d'Airbus. Les industriels sont confrontés à une explosion des carnets de commandes. Rien que l'an dernier, Airbus a engrangé plus de 2000 commandes. Le motoriste Safran, 2500 moteurs. Satisfaire les clients en temps et en heure est devenu le défi. Devant le dynamisme du trafic aérien, les compagnies sont à la peine et donc intraitables. Il leur manque plusieurs centaines d'avions, explique Guillaume Faury. Pression supplémentaire, il faut des bras. Le secteur recherche cette année 30 000 personnes, en particulier des techniciens, explique-t-on au GIFAS. Toutes ces tensions ont aussi un impact sur la R&D, sur le futur, car il s'agit, indique Guillaume Faury, de choisir aujourd'hui des technologies qui reposent le moins possible sur des matériaux critiques. Électrification, aimant permanent, pile à combustible. Bref, un casse-tête de plus que doit tenter de résoudre rapidement tout le secteur aéronautique.
Jean-Baptiste Huette, 18h05. On poursuit avec cette mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui ne pourra pas plafonner les indemnités de licenciement des traders et des financiers à Paris. C'était pourtant une des mesures phares de son projet de loi d'attractivité de la place financière de Paris pour attirer les grandes banques anglo-saxonnes. Mais le Conseil d'État y est défavorable. Johan Delra.
Licencier sans obstacle et à moindre coût, c'est la demande choc des grandes banques étrangères, principalement américaines. Beaucoup ont débarqué à Paris après le Brexit, mais elles ont identifié un point noir. Le licenciement d'un trader coûte trop cher en France, plus d'un million d'euros, 7 fois plus qu'à Londres et 5 fois plus qu'en Allemagne. Des indemnités de départ trop élevées selon les patrons de Goldman Sachs et JP Morgan. Emmanuel Macron les a reçus il y a quelques mois à l'Élysée. Le député Renaissance qui porte la loi sur l'attractivité a donc tenté d'inclure une mesure. L'idée, limiter les indemnités de licenciement des traders et des financiers à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit près de 460 000 euros. Problème, le Conseil d'État fait barrage, estimant que cela créerait une rupture d'égalité dans le droit commun. Impossible donc, en l'état, d'intégrer dans le texte cette mesure réclamée par la plupart des banques américaines.
Johan Delra. Et puis pour finir, la justice britannique se penche sur une question passionnante. Qui de Pfizer ou de Moderna a inventé la technologie de l'ARN messager qui a permis de sortir en un temps record les vaccins contre le Covid? Un procès s'est ouvert aujourd'hui à Londres et jusqu'au 15 mai pour tenter d'établir la paternité des brevets. Hélène Cornet.
L'abattage judiciaire est officiellement lancé. Moderna accuse Pfizer de violation de brevet. Le laboratoire estime que son concurrent a copié des éléments de sa technologie sans autorisation et surtout sans redevance. Le géant américain réplique en assurant que les brevets en question sont invalides. Difficile, voire impossible, de démêler le vrai du faux. L'un des brevets, par exemple, concernerait une innovation trouvée par deux chercheurs de l'université de Pennsylvanie il y a plus de 20 ans. L'un d'entre eux est parti ensuite rejoindre les équipes de BioNTech pendant que Moderna signait un partenariat avec l'université. Le souci, c'est que les deux vaccins se ressemblent énormément et que tous les brevets déposés incluent de larges extensions possibles. La plainte date de 2022 et aucun des deux laboratoires n'a l'intention de lâcher l'affaire. Il s'agit d'un combat stratégique au-delà des vaccins anti-Covid. L'ARN messager est considéré comme la poule aux œufs d'or dans le développement d'une nouvelle génération de médicaments.
Hélène Cornet, 18h08, on va sur les marchés. Les marchés en direct d'Euronext, bonsoir Aude Kersulec. Le CAC a fini sa deuxième journée de la semaine, à nouveau dans le vert.
Oui, ça va très très bien sur les marchés aujourd'hui. Du vert quasiment partout, plus 0,8% à Paris. On a renoué avec les 8100 points, 8105 points. Et même un record du côté de Londres, l'indice londonien, le FTSE 100, qui a franchi les 8072 points pour la première fois de son histoire. Bon, à Paris, on est encore à 150 points du record historique, mais ça pourrait venir. On est dans la séquence de publication, alors de chiffre d'affaires pour le marché français. Tenez, on a même une publication qui avait déçu ce matin chez Renault, notamment parce que la division automobile s'affichait en baisse. Mais on a tout de même fini la journée en hausse pour l'action Renault de 0,4%. Alors certaines sont quand même sanctionnées. L'image de OVH Cloud, donc on est dans la tech. OVH Cloud qui a abaissé ses perspectives, baisse de 17% du titre ce soir en clôture. Et puis donc les chiffres de vente de Kering dont on a parlé en début de journal, les perspectives très négatives aussi pour le premier semestre et le bénéfice net seront arbitrés demain à la reprise de cotation. Kering qui montait aujourd'hui en attendant, comme l'ensemble du secteur du luxe, mais c'est une valeur quand même très à la traîne depuis le début de l'année. Kering qui perd 12% depuis le 1er janvier. Donc l'arbitrage des marchés, ce sera demain à 9h en attendant. Donc c'est très belle journée quand même sur les marchés financiers, plus 0,8% pour le CAC à 8105 points.
Merci beaucoup Oscar Sulek. On jette un coup d'œil au marché américain. Wall Street, le Dow Jones gagne 0,57% à 38 458 points. Le Nasdaq, la tech américaine, progresse plus largement, gagne 1,42% à 15 670 points. 18h10, on marque une pause et dans un instant, la grande interview d'Edwige Chevrillon qui reçoit ce soir le président fondateur de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va voyager, mais en même temps, on va aussi parler de rachat d'actions. Bonsoir Jean-François Rial.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, PDG, cofondateur de Voyageurs du Monde, le spécialiste du voyage sur mesure et voyage d'aventure et du vélo. On verra ça, parce que là, vous avez publié aujourd'hui vos résultats pour 2023. Et on voit que voilà, ça a explosé, et notamment les voyages en vélo. Mais il y a un point aussi très intéressant, c'est que vous annoncez, ça y est, la bourse est fermé, vous pouvez le dire, une offre de rachat d'actions très importante qui porte sur près de 20% du capital de Voyageurs du Monde, 130 millions d'euros. Vous savez que ça n'a pas du tout bonne presse. Le gouvernement ne veut pas de rachat d'actions. Il y en a eu pour 30 milliards, je crois, dans le CAC 40. Il dit augmentez vos salariés, investissez. Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Alors, on fait ça parce qu'en fait, pendant le Covid, on était en grande difficulté puisqu'on avait, sur la première année, perdu 85% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on avait la chance d'avoir une situation financière très saine. Et donc, on a pu obtenir d'actionnaires qui nous fassent une augmentation de capital pour nous sécuriser.
Oui.
On a augmenté notre capital de 130 millions d'euros. Comme par hasard, c'est le même montant que notre achat d'actions. Et puis, il se trouve que on a fait quelques acquisitions, en particulier sur le vélo. Mais on a eu surtout très vite, à partir de 2022 et encore plus en 2023, des très bons résultats. On a augmenté nos résultats presque du double, du plus haut cette année. Et donc, du coup, on a eu beaucoup d'argent. On a trop d'argent, entre guillemets. On n'a pas de quoi investir autant d'argent. Donc, on garde quand même une capacité d'investissement très importante suite à notre achat d'actions, pas loin de 100 millions d'euros qui nous resteront. Mais on a versé des bonus exceptionnels à nos salariés. Et puis, par ailleurs, on les a augmentés.
C'est trop riche, quoi. C'est un problème de riche.
Et donc, en fait, c'est pas en contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement, à mon avis, critique à tort les rachats d'actions. Parce que il y a rachat d'actions bon et puis il y a rachat d'actions mauvais. Le rachat d'actions bon, c'est quand vous avez du cash qui ne vous sert à rien, qui ferait mieux d'être investi par vos actionnaires dans d'autres activités plus productives et plus intéressantes. Et si on est contre le rachat d'actions, on est contre la diminution de capital, on est contre la distribution de dividendes, et donc on est contre les augmentations de capital, parce que quand on a obtenu une augmentation de capital, nous, pendant la période du Covid, de 130 millions d'euros, si on avait dit à nos actionnaires qui nous ont fait la gentillesse de nous suivre dans une période difficile, vous serez taxés le jour où on vous les rendra, vous ne pouvez pas le faire. Et la critique du gouvernement consistant à dire qu'il faut investir, il faut augmenter les salaires, etc., nous on le fait tous les jours. tous les jours. Simplement, là, on a trop d'argent, donc il vaut mieux rendre cet argent à nos actionnaires pour qu'ils le réinvestissent, eux, dans l'outil productif. Donc, encore une fois...
Et puis, vous faites maintenant, parce que du coup, vous n'aurez pas de taxe sur les rachats d'actions, parce que la taxe, elle va arriver, mais elle n'est pas encore arrivée.
Oui, mais on n'avait pas vraiment anticipé ça. Et puis, dans le premier projet du gouvernement, il y a 6-8 mois... ce projet de taxe ne nous aurait pas concernés non plus, parce que c'est pour des sociétés plus grandes que nous. Ceci dit, leur projet va peut-être être modifié. Mais moi, je trouve que là, pour le coup, quand j'entends le président Macron et le gouvernement critiquer de façon aussi violente les rachats d'actions, je trouve que c'est pas justifié.
Non, mais c'est peut-être pas le cas chez Voyageurs du Monde, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des entreprises qui l'ont fait,
oui,
et qui pourraient très bien augmenter. Il y a un problème de pouvoir d'achat en France, notamment des salariés.
Oui, mais c'est pas les mêmes sujets, c'est pas incompatible.
Si c'est le même sujet.
Non, mais il y a plein d'entreprises qui font pas de rachat d'actions et qui augmentent pas bien leurs salariés.
Oui.
Et des entreprises qui font des rachats d'actions et qui augmentent bien leurs salariés. Donc là, on mélange tout, en fait. Il y a des bons rachats d'actions et puis il y a des mauvais. Ça, le gouvernement peut le dire. Mais systématiser...
Les rachats d'actions, c'est quand même fait pour que les actionnaires,
oui,
non pas les salariés,
oui,
les actionnaires,
oui,
aient plus d'argent in fine et plus de dividendes.
Non, ils n'ont pas plus d'argent, ils ont plus de pourcentage du capital.
Non,
c'est pas vrai.
On est d'accord.
Un rachat d'actions, quand c'est... D'ailleurs, on le voit bien, il y a des études qui ont été faites, ça fait ni monter le cours ni baisser le cours. Bah, c'est normal, parce que le prix qui est proposé, il est au prix du marché.
Alors, vous proposez combien? Une
150
prime de combien?
Euros. On propose 150 euros. Le dernier cours devait tourner autour de 130. On propose 150 euros. Ça fait une valorisation de l'entreprise à 800 millions d'euros. On a 230 millions d'euros de cash à peu près. On en a 130 de trop. On en gardera 100 pour investir. On aura large, sans parler des bénéfices futurs qu'on va continuer de faire, on aura largement de quoi faire.
Encore une fois, c'est quand même
on rend aux actionnaires
ce capital.
Pardon ?
Ça représente 20% du capital.
Ça représente 20% du capital.
C'est énorme.
Oui et non, un peu moins de 20%, hein, parce que 130 divisé par 800, ça fait un peu moins de 20%. Mmh. Mais c'est aussi l'argent qu'on a reçu en plus en capital pendant le Covid. On rend l'argent qu'on a voulu avoir pour se protéger. Et il se trouve qu'on a eu des résultats magnifiques. D'ailleurs, le gouvernement a beaucoup contribué pendant la période du Covid à ce qu'on n'aille pas à la catastrophe. Et là, merci le gouvernement. Ça, clairement, toutes les aides qui ont été faites pour aider les entreprises ont été absolument remarquables. Mais là, aujourd'hui, on a trop d'argent. Cet argent ne nous sert à rien parce qu'on a eu des très bons résultats, parce qu'on a aussi investi, on a augmenté nos salariés et donc on le rend à nos actionnaires.
Alors...
Et nos actionnaires, d'ailleurs, ils vont faire ce que demande le gouvernement, c'est-à-dire utiliser cet argent pour le réinvestir. Aujourd'hui, nous, si on garde cet argent, on va le mettre en cycle monétaire. Ça sert à quoi?
Okay.
Rien.
Oui, oui. Mais alors déjà, Mathias, vous vendez, vous actionnaire, parce que vous êtes trois fondateurs, on va le rappeler.
Nous, on a essentiellement...
Vous, le management, vous vendez?
Oui, on va en vendre un petit peu. Celles qu'on a en direct sur Voyageurs du Monde, on les vend. Celles qu'on a en action cotées. Mais on est essentiellement actionnaire, nous, de la holding.
Société, la holding.
Voilà, dans laquelle on garde nos actions pour la plupart.
Mais qui, elle, vend aussi.
Qui va vendre un petit peu d'actions aussi.
Oui.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Non,
tout à fait. Elle va participer à l'Opra.
Et cette Opra, elle s'ouvre demain.
Elle s'ouvre à partir de demain. Elle se clôture début juin. Je crois que c'est début juin que les actionnaires devront se positionner,
oui,
pour savoir s'ils veulent garder ou s'ils veulent céder. Chacun fait comme il l'entend. Voilà.
Mais en même temps, moi, j'ai envie de dire... vous avez des résultats formidables, vous,
oui,
avez une augmentation du chiffre d'affaires, on va voir ça dans un instant, qui est de l'ordre de, je cherche
45%.
Un grand cru, 45%.
Ouais.
Vous regardez les EBITDA, vous regardez le résultat net,
ouais,
tout ça c'est à deux chiffres.
Oui.
Donc, bah, moi si je suis actionnaire, je reste plutôt actionnaire de Voyageurs du Monde, non?
Bah, vous pouvez, parfaitement, hein, c'est votre droit le plus strict, simplement le prix proposé est quand même assez attractif, chacun décidera comme il l'entend. On a eu des résultats exceptionnels, c'est vrai, mais attention, il y a une partie de ces résultats exceptionnels qui vient de notre croissance externe. Il y a une partie de ces résultats qui vient d'une année 2023 exceptionnelle en termes de consommation de voyage, parce qu'elle était post-Covid. Et sur 2024, on continue d'être en croissance.
Parce que c'est un petit
beaucoup
peu moins
plus modéré,
700 millions de chiffre d'affaires, 693 millions.
Voilà. Mais ce que je veux vous dire, Edwige, pour répondre à votre question,
40%.
C'est qu'en 2024,
ouf,
on est moins en croissance.
Oui, on va venir.
Notre croissance se réduit.
Un instant sur 2023.
Et surtout, on a un environnement géopolitique qui, quand même, se complique.
Alors, non, mais c'est ça qui est incroyable, François Riel, c'est que vous êtes en train de nous dire attention, nos sociétés, là, non, elle ne va pas bien, ça va être beaucoup plus dur, les temps sont durs, etc. Alors que...
Non, mais on fera pas la croissance de notre chiffre d'affaires et de résultats qu'on a eu en 2023, en 2024.
Ouais.
Ça, c'est clair. On espère bien qu'on fera aussi bien, je n'en sais rien. On fera probablement mieux en chiffre d'affaires, en résultats, j'en suis pas sûr, parce qu'on est dans un environnement géopolitique complexe, l'Ukraine, Israël, voire l'Asie avec Taïwan. Et puis surtout, on a un effet qui nous pénalise, c'est les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques...
Alors justement,
les Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça génère? Ça génère des tarifs aériens très élevés l'été, au départ de la France. Et du coup, nos clients qui partent quand même essentiellement l'été, partent moins l'été, et ça nous pénalise. Dernière chose, le délai de réservation, qui était assez long l'année dernière, s'est raccourci, parce que on est dans un environnement économique qui est plus difficile. Qui est plus difficile pour les agents économiques. Donc du coup, ils achètent des voyages, ils continuent de consommer des voyages, mais ils font plus attention. Donc on n'est pas dans la même situation en 2024 qu'en 2023. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des moins bons résultats.
C'est la fin du rattrapage, quoi, grosso modo.
Voilà. C'est la fin du rattrapage. Alors il y a trois choses.
2024.
C'est la fin du rattrapage. C'est des conditions économiques perçues par les agents économiques qui sont plus difficiles dans toutes les classes de revenus, y compris les plus aisés. Et la troisième chose, c'est un environnement géopolitique qui est quand même pas évolué tellement dans le bon sens, quoi. Voilà. Maintenant, moi, si vous me demandez est-ce que Voyageurs du Monde ira bien dans les prochaines années, j'en suis convaincu que oui. C'est du long terme. Sur 2024, je suis un peu moins sûr.
Ouais. Donc, résumé. Grand Cru 2023, d'accord, on a compris, tout a cartonné, mais maintenant, contexte géopolitique incertain.
Plus compliqué.
Mais en même temps, si on veut aller en Égypte, tout est plein.
Alors, tout est plein chez Voyageurs du Monde, parce qu'on a un bateau exceptionnel, qui a 100 ans d'histoire, qui s'appelle le Simship Soudan, et qui est le plus vieux bateau du Nil. Bon, mais, sur l'ensemble des marques du groupe, l'Égypte est en baisse. Parce que le contexte géopolitique a fait baisser l'Égypte, mais a sinistré totalement la Jordanie. Je parle même pas d'Israël, évidemment. Et je dirais tout le monde arabo-musulman a souffert. Vous y rajoutez toute l'Europe de l'Est qui souffre à cause du conflit ukrainien, l'Asie qui souffre parce que c'est plus long et plus cher d'aller en Asie avec les avions européens parce qu'il faut contourner la Russie. Bon tout ça fait que il y a une inquiétude économique et géopolitique qui est, en ce moment, défavorable au voyage. Mais c'est en ce moment.
Et puis, il y a juste un point, je voudrais après qu'on parle du vélo quand même, parce que c'est amusant de voir comment vous avez cartonné, et en plus vous avez fait des acquisitions dans ce secteur-là. Les Jeux Olympiques, donc, et puis c'est l'ancien président de l'Office du Tourisme de Paris qui dit ça, Jeux Olympiques, en fait, c'est pas très bon pour vous, donc c'est ça que vous nous disiez à l'instant.
Alors, les Jeux Olympiques, c'est pas très bon pour nous, c'est pas forcément non plus très bon pour la France et Paris touristique pendant les JO, parce que les prix sont très chers, les stocks sont faibles, la perception qu'il y a trop de monde et que ça va être trop cher est négative. Néanmoins, les JO, à long terme, ou même à moyen terme, c'est très bon pour Paris et la capitale. Il y a une espèce de JO bashing permanent en ce moment.
Mais les Français,
ça reste un événement exceptionnel et qui sera, si on réussit cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, avec un rayonnement et une communication exceptionnelle pour Paris et pour la France. Donc les JO, ça peut être pas très bon à court terme, mais ça peut être très bon à long terme pour l'image de la France.
Alors si on regarde les vélos, parce que votre nouvelle activité de voyage à vélo que vous aviez acheté, 16% du chiffre d'affaires du total de Voyageurs du Monde. Donc c'est énorme, parce qu'il y a très peu de temps, là, vous étiez venu nous annoncer que vous vous lanciez dans
et
le vélo.
Et 40% des clients.
Oui, et 40% des clients.
On a à peu près...
C'est incroyable.
On a 250 000 clients maintenant annuels dans le monde. On a 35% de notre activité qui était à l'étranger, ce n'est pas des Français. Dont 100 000 sur les vélos. Alors les vélos, le vélo, c'est des voyages d'abord bas carbone. C'est des voyages itinérants, où on gère toute votre logistique et vos hébergements. En gros, vous faites des balades à vélo comme vous les feriez à pied, mais on gère toute votre logistique et votre hébergement. On a acheté le leader en vélo en Europe, qui s'appelait Eurofun, pendant le Covid. Et depuis, il a eu une croissance très forte.
C'est impressionnant.
Ce qui explique
ce pourcentage.
Et c'est pas
qu'en France.
Non, on est présent surtout en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. On a même un produit qui est très très sympa, qui mélange le vélo et la péniche. Vous faites une balade et vous êtes à vélo, et puis de temps en temps, vous circulez en péniche, vous mettez votre vélo sur la péniche, vous redescendez, vous continuez, etc. On appelle ça bike and barge. Vous voyez, le vélo et la barge.
Alors, maintenant que vous nous avez expliqué que
voilà le Simship Soudan, là, qu'on voit en photo.
Oui.
Notre fameux bateau sur le Nil.
Pour ceux qui nous regardent à la télévision. Jean-François Rial, donc là, vous avez beaucoup d'argent, vous voulez donc... rendre 130 millions, si j'ose dire.
C'est ça. Exactement le même montant que ce qu'on a eu comme augmentation de capital.
Et dans les deux cas, vous étiez venu ici l'annoncer.
Exact.
Maintenant, il vous reste 100 millions, vous nous avez dit, sous le pied pour faire des acquisitions.
Oui.
Quel secteur, où, quelle géographie?
Alors, il y a trois secteurs où on peut faire des acquisitions. Le sur-mesure, l'aventure, le vélo. Déjà sur le vélo, on va en faire plusieurs petites pour compléter un peu notre maillage en Europe. Ça c'est sûr, ça on va le faire dès cette année, mais c'est des toutes petites acquisitions, mais avec un fort potentiel. Je dirais que le vélo est notre axe principal de développement en croissance externe parce qu'il est bas carbone, il est à la mode et il est CO2, low cost CO2, hein, comme on dit, donc ça on pousse. Mais on s'interdit absolument pas de faire des acquisitions dans l'aventure ou dans le voyage sur mesure, essentiellement, je dirais, sur les pays anglo-saxons. Ce qui nous intéresse le plus, on a commencé, c'est nous renforcer sur la Grande-Bretagne et sur les États-Unis, parce que c'est de la langue anglaise, que quand vous êtes sur de la langue anglaise, vous touchez de la clientèle dans le monde entier, et qu'on a un potentiel très important. Les deux plus grands marchés du voyage dans le monde, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est plus compliqué, langue allemande. On va y aller avec la marque Voyageurs du Monde en croissance
interne. Quand vous
dites
les plus grands pays voyageurs du monde, c'est parce que...
Les plus grands...
C'est eux qui voyagent le plus ou on organise le plus de voyages?
C'est eux qui voyagent le plus.
Plus. D'accord, c'est eux qui voyagent le plus.
Nous, notre pays clé, c'est bien sûr encore la France. Hein.
Mais nous, on a la France, voilà. C'est normal, on voyage en France.
Oui, bien sûr. Mais je dirais que, vous voyez, il y a plus d'Anglais et d'Allemands qui voyagent à l'étranger que d'Américains, par exemple.
D'accord.
Les Américains voyagent très peu à l'étranger. Ils voyagent avec des budgets très élevés, mais ils voyagent très peu. Beaucoup moins que les Français, par exemple. Voyagent moins à l'étranger que les Français. Donc les deux pays principaux, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre, on a plutôt décidé de faire de la croissance externe. Et sur l'Allemagne, on a le vélo déjà présent. Et on va faire sur le voyage sur mesure un peu de croissance interne parce qu'on a un grand succès sur le marché suisse. On va commencer par la Suisse alémanique, puis on va aller en Allemagne.
D'accord.
On va y aller.
Donc vous remontez...
En 2025.
Le pays où il faut réserver pour cet été, c'est où?
Le pays où il faut réserver pour cet été, c'est, il y a des pays qui sont inaccessibles parce que trop demandés, donc faut les éviter.
C'est...
Le Japon, par exemple, c'est un succès fou, la Polynésie, la Tanzanie, etc. Puis il y a des pays un peu plus délaissés, l'Amérique latine, les États-Unis, par exemple, c'est plus délaissé cette année. Ce qui marche très bien cette année, contrairement à l'année dernière... C'est l'Europe. Les voyages en Europe marchent très très bien, alors que l'année dernière, c'était plutôt une année de long courrier. À chaque fois, on a des effets de balancier, comme ça.
Voilà. Petite dernière question. Les croisières, parce que vous en faites une sur le Nil, vous ne pouvez pas développer, genre le Ponant, là, puisqu'on parlait tout à l'heure des résultats de Kering, le Ponant qui appartient, donc les bateaux de croisière qui appartiennent au Pinot, ça ne vous tenterait pas?
Alors, on a des croisières fluviales, comme celle sur le Nil. On a aussi des croisières polaires avec Grand Nord, Grand Large, qui est une marque de terre d'aventure qui fait un carton là-dessus. Mais je dirais que les croisières classiques de Costa à Ponant correspondent pas complètement à nos clients.
Ouais.
Par exemple, on distribue le Ponant chez Voyageurs du Monde. C'est un des rares produits qu'on distribue. Mais on a 200 clients par an sur le Ponant, ce qui est quand même très faible. Parce que c'est pas l'esprit de nos clients.
Merci Jean-François Rial. Donc l'Opra, ça commence demain.
Voilà.
Et donc ça va très très mal, Voyageurs du Monde, vous l'avez compris. Voilà, en tous les cas, c'est le message que vous vouliez faire passer, mais vous avez du mal à le faire passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le patron cofondateur de Voyageurs du Monde. Tout de suite, c'est Thomas Asportas, l'essentiel de l'info.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h34 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir pour la première partie. Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre nous ont rejoints au plateau. Bonsoir.
Bonsoir.
On commence demain avec cet accord trouvé entre les syndicats et l'UDP sur le compte épargne-temps universel, le fameux CETU. Le MEDEF, il faut le dire, et la CPME, eux, n'en veulent pas. Donc ça n'a pas empêché les autres partenaires sociaux d'avancer et de se mettre d'accord. Est-ce que le compte épargne temps universel est une bonne idée? On peut commencer par ça déjà. Emmanuel?
Sur le papier, oui, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, par rapport au compte épargne temps classique, finalement, était beaucoup plus couteau suisse. Hein, vous pouvez l'utiliser de façon plus flexible. D'abord, c'était tous les salariés, c'était quand même un usage beaucoup plus large que le compte épargne temps d'aujourd'hui.
Je crois que c'est que 20% des entreprises aujourd'hui.
Oui, exactement,
aujourd'hui
20% aujourd'hui. Ouais. Donc, vous pouviez l'utiliser de façon quand même beaucoup plus souple, hein, au fil du temps, notamment, y compris même pour votre fin de carrière, si vous vouliez l'abréger un peu. Et puis surtout, il y a cet aspect quand même qui est le plus important sans doute, c'est la portabilité. C'est-à-dire qu'en gros, en changeant d'entreprise, vous gardez votre compte épargne-temps. Donc on comprend bien l'avantage pour le salarié. Le problème, c'est que ce que dit le MEDEF et la CPME, et ce qui est vrai, c'est que financièrement, pour les entreprises, c'est compliqué.
Ça va coûter plus cher.
Avant, c'était de l'argent qui restait chez elles. Or là, c'est de l'argent qui va falloir... C'est un coup porté à leur trésorerie. Et donc, on comprend qu'il n'y ait que l'U2P, finalement, qui ait signé cet accord.
Parce que c'est la Caisse des dépôts qui gérerait ce CETU.
Ouais.
Absolument. Effectivement, c'est plus la même tuyauterie.
Ça serait un peu comme les notaires, ça serait géré comme ça. Oui, alors il y a quand même, pour le salarié, ce serait un avantage quand même assez considérable. Ouais. Donc ça, c'est sûr, comme l'a souligné Emmanuel. En même temps, ça ferait, au-delà du problème de trésorerie, ça ferait une tuyauterie quand même très compliquée aussi pour les entreprises. À l'heure de la simplification, on en parlera demain avec Bruno Le Maire, c'est sûr que ça ferait une nouvelle usine à gaz à gérer pour les entreprises.
Oui, alors sachant en plus que le salarié peut en profiter au bout de 3 ans d'ancienneté. Oui. C'est ça. Donc, oui, évidemment, ça va faire
comme l'exercice du gouvernement. Enfin, pas l'exercice là-bas. Le gouvernement, il veut essayer de pousser un peu la mobilité en France.
C'est un long
travail. Ouais. On a du mal, surtout avec la crise du logement. Mais ça pourrait permettre aller de faciliter un peu, aller dans ce sens-là, en tous les cas.
Oui, ouais. Et ce qui frappe quand même dans cette négociation, c'est que l'UDP y est allé sans l'accord du MEDEF. Est-ce qu'on peut y voir un coup de pub ou est-ce que finalement, c'est vraiment une question de conviction et il a raison sur le fond.
Mais il y a une petite guéguerre quand même entre la Fédération du BTP, la CAPEB, l'une qui dépend donc de l'UDP, l'autre qui dépend du MEDEF. Il faut quand même voir qu'en ligne de mire, il y a la question de la représentativité des syndicats. Et donc là, il y a une petite guéguerre syndicale aussi qui joue. Mmh. Et l'UDP a sa propre partition et qui veut s'affranchir en fait de celle du MEDEF. Donc il y a ça aussi qui surajoute
dans les
psychodrames qu'on a connus avec la signature, signera pas.
Ben oui, parce qu'on rappelle que c'est précisément sur ce point du CETU que le patronat a bloqué l'accord sur l'emploi des seniors.
Et a refusé de signer, absolument. Voilà. Oui, tout à fait.
Donc au-delà même du CETU, il y a un enjeu plus large, Emmanuel.
Bah oui, c'est-à-dire que quand on essaye de regarder un petit peu tous les éléments du puzzle dialogue social et qu'on essaie de faire la photo aujourd'hui, c'est vrai que le bilan qu'on peut faire de ce dialogue social en France aujourd'hui est quand même assez affligeant. C'est-à-dire que quand vous regardez...
J'allais dire pauvre, mais non.
Oui, pauvre, oui. Pauvre.
Non, affligeant, c'est le cran dessus.
Il est maigre, il est pauvre. Je veux dire, on voit bien que les syndicats sont affaiblis, que les syndicats de patrons effectivement font preuve de dissension. Si vous ajoutez à ça le fait que ces syndicats tellement corseté par les lettres de cadrage de l'État, n'ont pas pu finalement obtenir un accord sur l'assurance chômage, etc. Et donc vous vous dites, finalement...
Oui, mais alors justement...
On a un état du dialogue social en France qui, au niveau des organisations syndicales et des
confédérations
nationales, au niveau national, est quand même très très difficile et assez appauvri, ce qui heureusement n'est pas le cas dans les entreprises.
Mais alors justement, puisque vous parlez, Emmanuel, de l'assurance chômage, le fait que le gouvernement remette la main notamment sur l'UNEDIC, est-ce que ça en plus, ça veut dire quelque part que le paritarisme est terminé?
Alors, paritarisme, c'est un grand mot. Enfin, c'est un grand mot.
Oui, c'est un grand mot.
Historiquement, ça soulève plein de choses et beaucoup d'émotions. C'est sûr que, en tous les cas, ça veut dire que l'État reprend largement la main. Intéressant, tout à l'heure, Catherine Vautrin, la ministre du Travail, a dit que pour l'instant, elle ne s'interrogeait pas sur la question, sur la modification de la gouvernance.
Ça c'est un point important.
Ça c'est un point important. Alors à suivre parce qu'elle a déclaré ça tout à l'heure. Mais donc a priori, pour l'instant, ils sont c'est pas complètement
l'UNEDIC restauré entre
pas complètement la fin
dans
du paritarisme.
Les mains des partenaires sociaux. Alors que Bruno Le Maire lui veut nationaliser. Ouais. Donc mais effectivement, il y a peut-être un bras de fer à venir entre.
Non, à suivre. Attendez, c'est ce qu'elle a dit dans les propos.
Non, mais c'est effectivement, c'est intéressant. C'est un point important.
Enfin, dans les faits, ça change pas grand-chose, hein, puisque depuis 2018.
Enfin, c'est très symbolique, Emmanuel, quand même.
Oui, justement. Sur le fond, ça change pas grand-chose.
Oui, d'accord.
C'est très symbolique.
D'accord.
C'est-à-dire que les lettres de cadrage sont devenues finalement un tel carcan On voit bien hein, pourquoi le MEDEF.
C'est fait exprès.
Oui, bah justement.
Il me semble.
Oui, mais donc, d'accord. Oui, mais donc.
Oui, quel est l'intérêt, quoi.
Que l'État ne. Que, alors, l'État a beau jeu de dire, oh, bah, finalement, on change pas la gouvernance dès l'instant où on décide, parce que ça revient un peu à dire ça. C'est-à-dire qu'en gros, on vous laisse diriger, mais à condition que vous fassiez ce qu'on veut.
Oui.
Nous, l'État. C'est à peu près ça. Donc, oui, mais sur le fond, ça change pas grand-chose. C'est quand même l'État qui reprend la main.
Oui, parce qu'il faut quand même voir que l'État s'assoit sur ce qu'était l'accord qui a été signé en novembre.
Oui, hein. Voilà, c'est ça. Oui, parce que de fait, ça remet cet accord en effet en cause qui, finalement, aujourd'hui est nul et non avenu.
Là, il y avait eu un accord pour le coup.
Il y avait eu un accord, ouais. Effectivement. Mais il manquait la pièce du puzzle, l'emploi des seniors. Et dès lors qu'ils ne l'ont pas trouvé, ben, ils ont dit on met tout ça à la poubelle. Et alors, donc, du coup, la suite maintenant, c'est la réforme que veut le gouvernement et ça va aller ultra vite. Ça va être par décret, on ne peut pas faire plus vite.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y aura ni nouvelle lettre de cadrage, ni négociation, ni même projet de loi. On ne va pas consulter les élus non plus.
De toute manière,
un décret direct.
Il risque pas de passer devant l'Assemblée nationale, parce que là, sinon, ça serait un peu rude. Hein.
Ouais. Mais est-ce que vous approuvez ce genre de méthode? Parce que là, c'est presque martial comme manière d'agir, quoi.
Ouais, c'est le bout de la logique
du 49-3.
D'une méthode finalement qui ne fait pas ses preuves. En matière de d'efficacité des mesures prises, c'est-à-dire que on est déjà quand même, et la critique, on l'entend, sur la thématique de ces réformes de l'assurance chômage qui s'enchaînent,
oui.
Sans qu'on ait vraiment eu le temps d'évaluer les effets de chacune des réformes précédentes.
A priori, c'est plutôt positif, puisque le chômage baisse.
Oui,
non, forcément le quantifier, mais a priori, mais
on peut pas dire.
Enfin, on a une courbe qui se retourne.
On peut pas
oui,
dire.
Ces derniers mois.
Non,
oui. Depuis 2017.
Que, honnêtement, on peut pas dire que. De toute façon, la baisse du chômage depuis 2017, elle a vraiment des causes multiples, dont effectivement les premières réformes de l'assurance chômage, parce que c'est vrai qu'en 2017, quand on regarde le système d'indemnisation du chômage en France, indiscutablement, c'est un système qui est plus avantageux qu'ailleurs et n'incite pas à la reprise du travail. Le problème, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup qui a été fait. Et si vous regardez aujourd'hui sur chacun des critères, finalement, d'indemnisation du chômage, la France n'est plus jamais en tête par rapport aux autres grands pays sur tous les critères.
Quand même.
Si vous prenez tous les critères, que ce soit la durée d'indemnisation, les conditions d'accès, etc.
Enfin, on est moins généreux qu'avant,
mais
en
réalité, mais vous avez toujours.
Ce que je veux dire,
c'est que vous avez toujours un pays qui est plus généreux que nous, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Ouais. Tout ça pour dire que la France, en matière d'indemnisation du chômage, est quand même rentrée dans une forme de moyenne.
Ouais.
Voilà. Et que donc, effectivement, on peut s'interroger pour savoir si ça vaut encore le coup de s'acharner sur l'indemnisation du chômage pour avoir des gains marginaux et des résultats marginaux qui seront de plus en plus faibles.
Bah, sur l'emploi, indiscutablement. Mais peut-être pas sur les économies.
Oui, mais
là, pour le coup, c'est ce que disent les syndicats.
Alors,
ils disent on va faire des économies sur le dos des chômeurs.
Mais c'est là la clé, d'ailleurs, du choix qui est en train de se passer, ou plutôt du basculement de pardon, Edwige.
Non.
Du basculement qui est en train d'opérer.
Finissez votre phrase.
Du basculement qui est en train d'opérer Gabriel Attal en matière de ses préférences en matière de réforme.
Oui, Edwige. Justement, c'est que c'est intéressant à soulever, c'est que souvenez-vous, le Premier ministre avait dit, moi, je suis plutôt, là, ma première interview qu'il avait donnée, je suis plutôt pour réduire l'indemnisation.
La durée
d'indemnisation.
Oui, oui.
Marc Ferracci, donc on connaît bien ici, et qui est venu l'autre jour, il m'avait dit, non, il faut, en fait, c'est beaucoup plus efficace, et là, les conditions d'affiliation à l'assurance chômage. Ah, je dis, c'était quand même embêtant parce que vous êtes le monsieur assurance chômage, je veux dire, à l'Assemblée nationale. On sait tous qu'il a été témoin d'Emmanuel Macron, etc. Et vous n'êtes pas d'accord avec le Premier ministre.
Oui.
Et lorsque le Premier ministre Gabriel Attal est venu la semaine dernière à BFM TV, hop, il a parlé de celle-là, en fait. Non, je pense que c'est plus efficace d'être sur les conditions d'affiliation. Donc, ça m'a amusé ce petit bras de fer de voir ce que ça veut dire. C'est le président de la République, il a imposé à Emmanuel Macron. J'ai pas eu la réponse à Gabriel Attal. Ouais. J'ai pas eu la réponse là-dessus. Et puis, le deuxième point, c'est que finalement, ça rapporte, en fait, beaucoup plus d'argent.
Ouais, c'est ça.
Ça fait faire les économies.
Oui, voilà, c'est ça. Ça va beaucoup plus vite dans les comptes.
Voilà. Oui. Et donc, ça a joué, je pense.
Alors après, on a aussi un sujet d'acceptation de l'opinion publique, parce qu'au moment où la Bourse de Paris atteint des records, au moment où le CAC 40 explose en termes de bénéfices nets, il n'y a toujours aucun impôt qui est sur la table par rapport aux plus hauts revenus, par rapport aux entreprises non plus, et on entend cette petite musique, en tout cas de la part des partenaires sociaux, qui disent qu'on veut faire des économies sur le dos des chômeurs.
Oui, c'est ce que disent les partenaires sociaux. Moi, il me semble, quand on regarde notamment les enquêtes d'opinion, que la petite, la petite musique dans le pays, c'est plutôt que c'est pas si mal de s'attaquer, alors prenez très largement l'expression, à ceux qui se la coulent un peu douce. C'est-à-dire que quand vous mettez bout à bout toutes les mesures récentes, on voit bien que la priorité, c'est les gens qui travaillent. Donc l'assurance chômage, ça fait partie un petit peu de cette idée qu'il y en a qui se la coulent douce. Et d'ailleurs, qui n'est pas complètement contredite par les chiffres qu'on a eu lundi sur les contrôles des chômeurs.
Oui, absolument. Ouais,
quand vous avez 17% des chômeurs qui sont sanctionnés parce qu'ils ne recherchent pas assez activement...
Mais qu'il y en a 83% qui cherchent.
Un emploi. Alors non, il y en a 65% qui cherchent, 17% qui apparemment, comme dans le langage France Travail, ont besoin d'être redynamisés dans leur recherche d'emploi, et puis 17% qui globalement, effectivement, ne recherchent pas. Donc oui, effectivement, ça c'est vrai. Mais je pense que sur le plan social, je pense que la petite musique auquel les Français sont sensibles, c'est plutôt on s'attaque à ceux qui se la coulent douce quand nous on bosse et qu'on a droit à rien, que la petite musique pauvre chômeur.
Ouais. Oui, alors attention, parce que là, avec ce qui se passe sur les seniors, ça veut dire que les salariés...
Mais il se passe rien pour l'instant. Si
oui, mais enfin, là, on comprend quand même que les seniors de plus de 55 ans qui sont salariés depuis 30 ans, qui n'ont jamais connu le chômage, vont être traités comme le jeune homme de 26 ans qui aura travaillé moins de 6 mois
et, quand vous
et qui aura profité
du système. Vous me disiez non, c'est pas vrai, la France est très généreuse, etc. La réalité, c'est que si on fait ça, eh bien, la France sera quasiment le seul pays qui ne prévoit pas de dispositif plus cool.
Ah non, mais ça, on va voir. Non, ça, on ne sait pas.
Mais là, on y est pas.
Non, mais ça sera impensable, ça. On n'y est pas du tout.
D'accord, mais ça, on verra. Sauf qu'il y a plein de.
Ce sera peut-être plus dur pour les seniors aussi, mais le dispositif sera quand même peut-être plus avantageux.
Sauf que chez tous nos voisins, vous avez des dispositifs qui sont qui sont moins sévères pour les seniors.
Parce qu'on a plus de sur-mesure.
Bon. Mais c'est une des questions, c'est une des raisons pour lesquelles on a, en fait, je pense que le gouvernement a changé son fusil d'épaule. Ouais. C'est-à-dire que si tu diminuais la durée d'indemnisation, ça pénalisait les chômeurs, les seniors. En revanche, sur la durée d'affiliation, pour eux, ça leur pose aucun problème, oui, parce que souvent, ils sont depuis 30 ans dans leur boîte.
Hein, oui, bien sûr. Bon, en tout cas, donc l'UDP et les syndicats ont topé sur le CETU, et la ministre du Travail, Catherine Vautrin, indique qu'elle essaiera de reprendre au maximum l'esprit de cet accord dans un projet de loi à l'automne, puisqu'on le sait, à la rentrée, il y aura une nouvelle vague d'ordonnances travail. Donc tout ça, rendez-vous est pris à l'automne. Ouais. Deuxième sujet qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est cette réforme. Le sujet est très technique, mais il est important. La réforme du pacte de stabilité et les règles budgétaires européennes. Il y avait eu un accord fin décembre entre les pays membres. Aujourd'hui, ce sont les députés européens qui ont voté. C'est l'une des dernières grandes réformes adoptées au Parlement avant les élections européennes. On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques parce que sinon on va perdre tout le monde.
Compliqué.
Mais pour faire simple, en gros, on nous vend des règles plus faciles à comprendre, enfin plus crédibles et donc qui vont être mieux respectées et en même temps qui vont permettre aux États d'investir davantage. Est-ce que pour vous, le compte y est ou pas du tout ?
C'est quand même le triomphe pour le coup du en même temps, c'est-à-dire à la fois cigale et à la fois fourmi, à la fois j'ai des dettes et des déficits, à la fois je peux investir.
Ouais.
Donc moi je veux bien, mais franchement on voit bien que c'est une façon de céder quelque part un petit peu aux États laxistes, puisque ceux qui trouvent en gros que ces nouvelles règles sont extrêmement exigeantes, alors qu'en fait on essaye de faire un peu de sur-mesure pour les pays qui sont les plus endettés. Alors, les pays frugaux ont réussi à introduire quand même quelques obligations de réduction de dette, etc., pour les pays.
Obligations chiffrées.
Mmh. Mais la réalité, c'est que c'est assez peu contraignant pour les pays peu vertueux. Et que.
Vous voulez dire la nouvelle réforme?
La nouvelle réforme, oui.
Et que c'est de toute façon.
Et que c'est plutôt un système.
Non, mais est-ce que ça pouvait être moins contraignant?
C'est un système qui sera plus laxiste que le système précédent.
Plus laxiste, mais attendez, à partir du moment où jamais aucun pays n'a respecté de toute façon les règles qui étaient en vigueur, parce que je vous rappelle que si on dépassait les seuils, on était censé payer soit des amendes ou soit voir
dans la réforme
publique européenne coupée.
Le système de sanctions est plus dissuasif, est plus impressionnant, est plus important. Non. Donc vous pouvez.
Non, mais il y aura moins d'hypocrisie, disons. Attendez, quand on regarde que l'Italie qui a enregistré l'année dernière le déficit le plus élevé de la zone euro, 5,5% de son PIB, l'Italie, la France pareil, son 12%. notre PIB en termes de dette.
Où la France et l'Allemagne se sont mises d'accord toutes les deux pour piétiner les règles de Maastricht sans que personne ne dise rien. Donc, si vous voulez, de toute façon, le système de sanctions aujourd'hui, comme hier et demain, est assez peu effrayant. Donc, je veux dire, il n'y a aucun pays qui n'hésitera, enfin, je veux dire, à transgresser ces règles.
Non, pour l'instant, il n'y a pas tellement de juge de paix. Enfin, il y a pas tellement, on ne sait pas très bien qui pourra dire.
C'est la commission qui doit évaluer.
Voilà. Mais bon, voilà. D'abord, si je peux me permettre, la commission, elle va dégager. Donc,
La nouvelle commission.
La nouvelle commission placée. Oui, mais à voir du reste quelle figure elle aura.
Bien sûr.
C'est pour ça, et pas pour rien qu'ils ont signé aussi l'accord là.
Avant, oui.
Juste avant, sur le fil.
Tout à fait. En fait, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que, en gros, ces règles-là, les anciennes comme les nouvelles, finalement, elles ne servent pas à grand-chose. Enfin, tout le monde en fait un peu ce qu'il en veut, quoi.
Oui, la nouveauté, quand même.
La nouveauté, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Les efforts de réforme et d'investissement des États membres vont être récompensés, ça c'est nouveau, par la possibilité d'allonger la période donc, d'ajustement budgétaire jusqu'à 7 ans au lieu de 4. Et avec une récompense pour les pays qui vont investir dans les postes d'avenir, évidemment, transition écologique, éducation, etc.
Les règles précédentes ont été massivement foulées aux pieds par énormément de pays sans aucune sanction. Est-ce que vous pensez miraculeusement que parce qu'on va changer à la marge les règles du jeu, d'un seul coup, tout le monde va se mettre à respecter ses règles dès l'instant.
Non, mais donc je vous repose la question, à quoi ça sert de changer les règles?
Rien, ça sert à rien. Les sanctions, encore une fois,
comme une copropriété.
Revenez à la fameuse trajectoire des finances publiques qu'on a transmise à Bruxelles depuis 20 ans. Il y en a eu quasiment une par an et aucune n'a été respectée. Donc, vous voyez, on veut bien, oui.
Il y a juste un point, moi, j'ai juste la notion de dépenses justement dans l'avenir, dans l'armement, les notions d'investissement qui sont utiles. Au pays, là, il y a quand même une définition un peu plus souple. Donc, c'est ça que je trouve moins sectaire, peut-être, que les critères de Maastricht, qu'ils avaient été définis.
Oui, absolument. Et puis, on peut tout nous raconter sur la souveraineté européenne, mais ça se finance. Donc, peut-être que ces règles, elles deviennent un peu plus souples officiellement, même si ça ne changera rien sur le fond, pour permettre, justement, des investissements très coûteux qui sont essentiels.
Bon, on voit bien que c'est quand même très compliqué.
Et qu'on n'a déjà pas fait avec les budgets qu'on s'était fixés, puisque le grand plan de relance européen, qui, je vous le rappelle, était quand même censé nous projeter vers l'avenir, etc.
On sait même pas où il est. On est
très loin d'en avoir...
On était bien content de l'avoir au plus fort de la crise.
Non, mais Thomas, on était bien content de l'avoir. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que...
Il n'a pas changé la face de l'Europe, mais il a sauvé l'Europe en plein fort de la crise.
Sur les sommes qui étaient prévues, il y en a plein qu'on a... Pas décaissées. Pas de projet, pas décaissé.
Il y en a plein, moi je sais. Pas la moindre idée à part, effectivement.
Il reste à peu près 400 milliards. On a pris 300 sur les
700.
Oui, évidemment. C'est peut-être de l'argent qui servira enfin à financer la riposte européenne à l'IRA. Ça, on verra avec la prochaine commission. On parlait des élections. Est-ce que c'est pas un peu un échec aussi vis-à-vis des Européens, ce pacte? Parce qu'on voit bien que même nous, qui suivons ça de près, on a du mal à s'y retrouver. Est-ce que c'est pas un échec, à 2 mois des élections, de dire on vous promet des nouvelles règles, mais que personne ne va comprendre?
Ils se sont mis d'accord.
Non, mais ils se sont mis d'accord entre eux, entre technocrates, entre experts.
Non, l'échec, Thomas,
c'est d'essayer de sauver la face.
Des représentants des citoyens, justement. Est-ce que c'est pas un échec de toper sur des règles qu'aucun Européen va comprendre? À quoi ça sert?
L'échec, c'est d'essayer de sauver la face de la crédibilité en modifiant des règles que personne n'avait auparavant respectées. Oui. Et donc, cette modification des règles, c'est surtout, finalement, un aveu d'impuissance face à la gestion des finances publiques peu rigoureuse de beaucoup de pays.
Alors, justement, pour tout ça,
elle est un peu plus présentable.
Oui.
Finalement, on change les règles, mais ça ne changera rien à la situation des finances publiques.
Non, mais voilà. Personne n'empêchera la France mal gérer ses finances publiques.
Voilà, c'est ça. Disait Jacques Chirac. Personne ne nous enverra les chars si on ne tient pas nos objectifs de déficit public.
Alors, justement, c'est ça. Non, mais est-ce que c'est une question d'acceptabilité et de présentabilité, puisque j'ai compris que les dépenses publiques, maintenant, allaient être évaluées selon le concept des dépenses primaires, c'est-à-dire en excluant les taux d'intérêt ou les effets fiscaux? Est-ce que ça peut permettre à la France de redresser, mais en particulier ses comptes publics.
Oui, je pense que pour moi, c'est le point le plus intéressant, en tous les cas. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est le point le plus intéressant, parce que justement, il fait, au lieu qu'on avait un grand sac, un gros sac de jute dans lequel il y avait toutes les dettes et tout était mélangé, puis on secouait, puis on disait, oh mon Dieu, qu'il est lourd, et puis ça s'arrêtait là. Là, au moins, il y a plusieurs petits tas. C'est.
Comme vous dites, c'est un peu plus présentable.
Enfin, je vous rappelle quand même qu'entre la version initiale. Traité de Maastricht et la version qui nous est présentée aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus
modulable. Aujourd'hui on est 27.
Il y avait quand même une version intermédiaire déjà dans laquelle on avait mis l'accent sur ce qu'on appelait les déficits structurels qui effectivement paraissaient plus importants et on s'est aperçu que ça n'a strictement rien changé, c'est-à-dire que le déficit structurel de la France, il est toujours de 3% du PIB alors qu'il y avait des objectifs, des contraintes théoriques de réduction de ces déficits structurels. On voit bien qu'il n'en a absolument rien été. Et là, il y avait des complexités parce qu'effectivement, le déficit structurel, ça repose sur la croissance potentielle qui est compliquée à calculer. Bref, c'était là encore une usine à gaz.
Donc, en soi, la notion de déficit structurel n'est pas si évidente.
Elle n'est pas si évidente. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a abandonnée. Mais c'est pourtant la notion fondamentale. Plus qu'à la limite, la notion de dépenses publiques. Et moi, j'avoue que cette idée de s'attacher beaucoup plus aux dépenses, je suis un peu sceptique parce que qu'est-ce qu'on fait dans les périodes de. Comment on gère les cycles économiques, par exemple, vous voyez ? Est-ce que dans les moments où il n'y a pas de croissance, voire une récession, est-ce qu'on laisse filer les dépenses ou pas ? Donc c'est pareil, est-ce que c'est pas un peu rigide ?
Si on compare pour s'adapter au cycle économique.
On voit bien que le poste quand même, le poste qui va devenir le plus important, on le rabâche ici tout le temps, c'est celui des remboursements d'emprunt. Donc c'est la charge d'emprunt, quoi. 70 milliards, et on compare toujours avec l'éducation nationale, avec le budget l'intérieur, etc., etc. Donc je trouve que c'est intéressant de distinguer quand même. Non.
Oui, mais sauf que vous avez totalement raison, Edwige, c'est le point crucial, puisqu'en fait, le problème, c'est pas la soutenabilité de la dette publique en elle-même, c'est le poids que va prendre de plus en plus important, le coût de la dette, et qu'on va voir monter au cours des prochaines années, et qu'on verra que lorsque le poids de la dette, ça sera, si les taux continuent à rester élevés, on va gagner des points de PIB chaque année, et qu'on va voir nos marges de manœuvre se réduire, et qu'on pourra pas, du coup, aller vers ces investissements d'avenir. Donc moi, je pense que c'est là que ça commencera à coincer.
Premier poste des dépenses à partir de l'année prochaine.
En France.
Oui.
Ce nouveau pacte ne vous a pas convaincu, on posera la question à nos experts tout à l'heure, à partir de 19h. On verra si eux trouvent ça un petit peu plus convaincant.
En plus, ceux qui vont dire, merci. Ça va tenir que quelques semaines, parce que je pense que tout va changer
après les élections.
Après le 9 juin.
Il faudra voir effectivement les relations entre le nouveau Parlement, la nouvelle Commission. Effectivement, beaucoup de choses vont bouger à Bruxelles. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel et Edwige, votre invité. Donc Bruno Le Maire demain, c'est ça ?
Demain, Bruno Le Maire, choc de simplification. C'est son jour, c'est sa grande journée. Je vais le voir demain à Bercy. Je lui poserai la question. Je lui poserai peut-être une question aussi sur ce nouveau pacte de stabilité.
On espère.
Vendredi, il y a quand même un événement important.
Donc vous lui demanderez des nouvelles de son nouvel ami Albert ?
Oui.
L'intelligence artificielle.
Cette belle intelligence artificielle qui promet de simplifier le rapport au service public.
Ouais. Et donc, vendredi,
c'est peut-être là la clé.
Il y a les dettes de.
Les agences de notation.
Il
sera à Rabat, il sera au Maroc, donc il verra ça à distance. Merci à tous les deux. Merci Edwige.
Albert lui donnera le résultat des courses.
Exactement. Et merci Audrey, on se retrouve après la pub pour la deuxième heure de Good Evening.
À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, 19h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, les partenaires sociaux visiblement font de la résistance. Ouais. Ils ont trouvé un accord, presque tous les partenaires. L'UDP et les syndicats ont topé sur le compte épargne temps universel, le fameux CETU, sans le MEDEF et la CPME. Évidemment, c'est une précision importante. On va débattre de tout ça avec nos experts, Audrey, jusqu'à 20h.
Et alors avec nos experts, justement, nous allons aussi débattre du nouveau pacte de stabilité. Vous savez, les fameuses règles budgétaires européennes qui vient d'être adoptée par les députés européens. Alors, est-ce que c'est une réforme réussie ? Réponse dans un instant. Et puis, on va aussi leur demander où va la voiture électrique, puisque là aussi, ça part un peu dans tous les sens. D'un côté, on nous dit que les ventes reculent, mais de l'autre, l'Agence internationale nous annonce une année record pour 2024.
Effectivement, on a du mal à s'y retrouver. On posera la question donc à Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique de PwC France, Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut économique Molinari, et Frédéric Bocara, économiste et membre des économistes atterrés. Voilà le casting.
Ça nous promet un débat animé.
Bah, c'est bien la moindre des choses. Allez, c'est parti, en direct jusqu'à 20h.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good evening business, le journal.
Et avant de développer tous ces sujets, on se penche sur l'actu entreprise du soir avec les résultats du premier trimestre de Kering, le chiffre d'affaires du groupe du luxe pour le premier trimestre. Rebonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir.
Ce n'était pas une surprise, Kering avait lancé un profit warning le mois dernier, les résultats ne sont pas bons, mais on connaît quand même maintenant plus précisément l'ampleur des dégâts, Pauline.
Pour l'ensemble du groupe Kering, le chiffre d'affaires est en baisse de 10% au premier trimestre à 4,5 milliards d'euros, tiré vers le bas par une baisse de près de 20%, 18% comparable précisément pour Gucci qui représente quand même la moitié des ventes totales du groupe. Le chiffre d'affaires de Gucci s'établit un peu plus de 2 milliards d'euros au premier trimestre. Il recule notamment dans la région Asie-Pacifique. Il n'est pas épargné par le ralentissement chinois qui pénalise globalement ce secteur du luxe. Compte tenu de ce recul et de notre détermination à continuer d'investir sur le long terme, dit François-Henri Pinault, le PDG du groupe, Kering anticipe une baisse de son résultat opérationnel courant de 40 à 45% au premier semestre par rapport à 2023.
Bon, donc c'est confirmé, c'est très mauvais. Comment est-ce que le groupe veut faire pour se sortir de cette mauvaise passe ?
La direction mise notamment sur une montée en gamme, une élévation de toujours plus haut vers le haut de gamme pour l'ensemble des maisons du groupe. Visiblement, ça porte ses fruits chez Bottega Veneta. Kering souligne ce soir une très bonne performance grâce au positionnement très haut de gamme. La direction de Kering qui mise sur le temps long pour redresser le groupe. Il faut être patient, nous disait récemment un bon connaisseur du dossier. D'après le groupe, les choses se mettent en place chez Gucci, qui est donc le navire amiral. Les nouvelles collections de Sabato De Sarno, progressivement disponibles en boutique depuis mi-février, reçoivent un excellent accueil, notamment dans le prêt-à-porter et les chaussures, dit Kering ce soir. Un très proche du PDG François-Henri Pinault, Jean-François Palu, est en Italie depuis quelques mois, d'où il dirige maintenant Gucci. Il vient d'être rejoint par un ancien de chez LVMH, Stefano Cantino. Le groupe, au niveau donc, du groupe, renforce son organisation pour mettre en place une nouvelle stratégie. Jeudi, lors de l'Assemblée Générale, le nouveau binôme à la Direction Générale autour de François-Henri Pinault sera en quelque sorte intronisé. Le COMEX est musclé, le Conseil d'administration aussi. Ce soir, le groupe se montre confiant sur le fait que tout cela va finir par payer.
Bon, le groupe se remet en ordre de bataille pour essayer de redresser la barre. Merci beaucoup, Pauline Tadevin. 19h04, on poursuit avec le bilan 2023. Là, vous allez voir, ça n'a rien à voir. De la filière aéronautique, présentée ce matin par le GIFAS, la fédération du secteur. Et je dis que ça n'a rien à voir parce que là, les chiffres sont très très bon, un chiffre d'affaires en hausse de 9%, des carnets de commandes qui sont pleins, une année 2024 qui s'annonce au moins tout aussi bonne, mais il y a quand même une ombre au tableau, un problème de riche, vous allez me le dire. Le secteur doit encore et toujours faire avec les pénuries, les fameux problèmes de logistique et de supply chain, pour tenir la cadence. Jean-Baptiste Huette.
L'aéronautique française est sur un fil. Toutes les entreprises du secteur, petites ou grandes, font face à des difficultés d'approvisionnement. Titane, acier, aluminium, on cherche l'équilibre en permanence, explique Guillaume Faury, le patron du GIFAS et d'Airbus. Les industriels sont confrontés à une explosion des carnets de commandes. Rien que l'an dernier, Airbus a engrangé plus de 2000 commandes. Le motoriste Safran, 2500 moteurs. Satisfaire les clients en temps et en heure est devenu le défi. Devant le dynamisme du trafic aérien, les compagnies sont à la peine et donc intraitables. Il leur manque plusieurs centaines d'avions, explique Guillaume Faury. Pression supplémentaire, il faut des bras. Le secteur recherche cette année 30 000 personnes, en particulier des techniciens, explique-t-on au GIFAS. Toutes ces tensions ont aussi un impact sur la R&D, sur le futur, car il s'agit, indique Guillaume Faury, de choisir aujourd'hui des technologies qui reposent le moins possible sur des matériaux critiques. Électrification, aimant permanent, pile à combustible. Bref, un casse-tête de plus que doit tenter de résoudre rapidement tout le secteur aéronautique.
Jean-Baptiste Huette, 19h06, on poursuit avec cette mauvaise nouvelle pour le gouvernement. gouvernement qui ne pourra pas plafonner les indemnités de licenciement à Paris des traders et des salariés financiers. C'était pourtant une de ses mesures phares dans le projet de loi d'attractivité de la place de Paris pour essayer d'attirer au maximum les grandes banques anglo-saxonnes, mais le Conseil d'État s'y oppose. On voit ça avec Yohann Delra.
Licencier sans obstacle et à moindre coût, c'est la demande choc des grandes banques étrangères, principalement américaines. Beaucoup ont débarqué à Paris après le Brexit, mais elles ont identifié un point noir. Le licenciement d'un trader coûte trop cher en France, plus d'1 million d'euros, 7 fois plus qu'à Londres et 5 fois plus qu'en Allemagne. Des indemnités de départ trop élevées selon les patrons de Goldman Sachs et JP Morgan. Emmanuel Macron les a reçus il y a quelques mois à l'Elysée. Le député Renaissance qui porte la loi sur l'attractivité a donc tenté d'inclure une mesure. L'idée, limiter les indemnités de licenciement des traders et des financiers à 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit près de 460 000 euros. Problème, le Conseil d'État fait barrage, estimant que cela créerait une rupture d'égalité dans le droit commun. Impossible donc, en l'état, d'intégrer dans le texte cette mesure réclamée par la plupart des banques américaines.
Yohann Delra, 19h07. On poursuit avec cette question passionnante qui agite le secteur de la pharma. Qui de Pfizer ou de Moderna peut revendiquer la paternité de l'ARN messager, la technologie qui a permis de sortir le plus rapidement possible des vaccins contre le Covid? Un procès s'ouvre depuis aujourd'hui à Londres et jusqu'au 15 mai pour tenter d'établir la paternité des brevets de l'ARN messager. Hélène Cornet.
L'abattage judiciaire est officiellement lancé. Moderna accuse Pfizer de violation de brevet. Le laboratoire estime que son concurrent a copié des éléments de sa technologie sans autorisation et surtout sans redevance. Le géant américain réplique en assurant que les brevets en question sont invalides. Difficile, voire impossible, de démêler le vrai du faux. L'un des brevets, par exemple, concernerait une innovation trouvée par 2 chercheurs de l'université de Pennsylvanie il y a plus de 20 ans. L'un d'entre eux est parti ensuite rejoindre les équipes de BioNTech pendant que Moderna signait un partenariat avec l'université. Le souci, c'est que les 2 vaccins se ressemblent énormément et que tous les brevets déposés incluent de larges extensions possibles. La plainte date de 2022 et aucun des 2 laboratoires n'a l'intention de lâcher l'affaire. Il s'agit d'un combat stratégique au-delà des vaccins anti-Covid. L'ARN messager est considéré comme la poule aux œufs d'or dans le développement d'une nouvelle génération de médicaments.
Hélène Cornet, et puis pour finir, dans l'actualité des médias, eh bien ça y est, Nicolas Taverneau passe officiellement la main aujourd'hui à son successeur chez M6, David Laramendi. Dans un contexte où les audiences de la chaîne baissent depuis 1 an et où son propriétaire, l'allemand Bertelsmann, cherche toujours à vendre M6. Le point sur l'avenir de la chaîne avec Mathieu Pechberti.
Le successeur de Nicolas de Taverneau va devoir jouer les équilibristes. D'un côté, David Laramendi devra relancer des audiences en perte de vitesse depuis 1 an. Celle d'M6 est tombée à 8,1% l'an passé et celle des petites chaînes W9 et Sister stagne. Du coup, le chiffre d'affaires publicitaire a reculé d'1,5% l'an passé. De l'autre, le nouveau patron d'M6 ne pourra pas investir massivement dans les programmes alors que son propriétaire réclame des dividendes. Après avoir échoué à vendre M6 il y a 2 ans, Bertelsmann n'a pas l'intention de réinvestir. La loi lui interdit de céder le groupe avant 2028 alors que CMA-CGM, qui détient 10%, fait figure de favori pour le racheter. Mais dans le secteur, il se murmure que le groupe allemand a une parade. La loi plafonne sa participation à 49% tant que M6 réalise au moins 8% d'audience. La chaîne chercherait à limiter ses investissements dans les contenus pour abaisser son audience sous ce seuil désormais proche. M6 dément, mais si cela arrivait, Bertelsmann pourrait monter à 51% et mieux valoriser sa prime de contrôle avant de tout revendre dans 4 ans.
Mathieu Pechberti, 19h10, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Paris qui finit dans le vert ce soir pour la 2e séance consécutive de la semaine, plus 0,81% à 8105 points. Rebonsoir Aude Kersulec. Comment ça se passe à Wall Street?
Eh bien, on confirme la bonne passe d'hier dans le vert, les indices. Le Dow Jones qui monte de 0,6%, le S&P de plus de 1% et le Nasdaq plus 1,4%. La tech qui marche fort grâce à un léger reflux des taux obligataires américains, hein, le 2 ans et le 10 ans américains qui ont perdu 5 points de base, 4,59% pour le 10 ans américain. Les investisseurs qui ont acheté le creux hein, de la tech, c'était le cas chez Nvidia hier. Et des résultats d'entreprise aussi qui sont salués, c'est le cas par par exemple, chez Spotify, la valeur est en hausse de 16%. 16%, alors on fête un trimestre de rentabilité pour la société de streaming, 168 millions de dollars. Et puis aussi, on fête les 18 ans de Spotify aujourd'hui. Donc ouais, l'entreprise,
c'est un bon âge.
Exactement. Plus 16% donc pour cette valeur. Alors cela dit, aujourd'hui, ce soir, tous les yeux vont être tournés vers Tesla, qui publie après clôture. Le constructeur devrait annoncer son pire trimestre de l'histoire. Baisse de chiffre d'affaires, baisse de livraison. On va voir comment Elon Musk va tenter de rassurer le marché. En tout cas, pour le moment, l'action Tesla est en hausse de 2,2%, mais tout le marché monte aussi assez unanimement.
Merci beaucoup, Edgar Sulek. Et évidemment, on va regarder les résultats de Tesla de très très près. 19h12, on marque une pause et dans un instant, nos experts et Audrey Tcherkov nous rejoignent en plateau. On débat en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h15 sur BFM Business, un casting de choc ce soir pour décrypter l'actualité économique pour vous. Stéphanie Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et conseillère économique de PwC France, Nicolas Marques, bienvenue.
Bonsoir.
Directeur général de l'Institut économique Molinari et Frédéric Bocquerac,
bonsoir.
Qui enlève sa veste,
oui,
économiste et membre des économistes atterrés.
C'est l'actualité.
En avril, on a besoin d'un
oui,
de se découvrir d'un fil en avril malgré tout. Parce
et bien c'est fait. Allez, on commence avec cet accord trouvé entre les syndicats et l'UDP, Thomas, donc sur le compte épargne-temps universel. Le fameux CETU. Le MEDEF et la CPME n'en veulent pas, mais ça n'a pas empêché les autres partenaires sociaux d'avancer et de se mettre d'accord. Alors, on peut déjà commencer par cette question assez simple. Est-ce que le compte épargne-temps universel est une bonne idée, Nicolas Marques?
J'ai pas d'avis. Moi, j'ai un avis sur un sujet très précis, c'est sur l'interventionnisme de l'État dans tous les sens. Parce que l'histoire française, la tradition française, c'est la protection sociale. Pour une grande partie, elle est paritaire, elle est gérée par les partenaires sociaux. Ça veut dire qu'il y a les syndicats de salariés, les organisations syndicales, le patronat, ils se mettent d'accord. Et quand ils se mettent d'accord, ils créent la protection sociale où ils la font évoluer. Et là, depuis quelques années, on voit l'État, qui ne fait pas son travail en tant qu'employeur, on y reviendra, qui décide à la place des partenaires sociaux, leur met le couteau sur la gorge et intervient dans tous les sens. Pour moi, la bonne vision, c'est un État qui, en tant qu'employeur, assumerait ses responsabilités et qui ferait en sorte que les régimes de protection sociale soient bien gérés. Je vous donne deux, trois exemples. Un régime de protection sociale bien géré, il devrait avoir des réserves. L'État, dès qu'il envoie, il cherche à les piller.
Oui, c'est ça.
Il devrait provisionner certaines choses parce qu'il y a des choses qu'on peut prévoir avec les réserves, notamment les chocs économiques, mais il y a des tendances lourdes, par exemple démographiques, ça mériterait de prévisionner. Et l'État, au lieu de les aider à faire ça, il fait l'inverse. Et donc, pour moi, il met la pagaille, il n'assume pas ses responsabilités et c'est ça mon sujet.
Frédéric Bocquerat, j'imagine que vous êtes d'accord, à minima, avec tout ce qui vient d'être dit.
Comment dire? D'abord, moi, j'ai envie de dire une autre chose, c'est que je suis content qu'on mette en avant l'UDP. Je trouve que c'est une organisation intéressante. J'ai siégé pendant 6 ans au Conseil économique et social.
Oui, vous avez raison.
Avec mes collègues de l'UDP, qui sont à la fois, qui sont la fusion de ce qui était l'artisanat et de ce qui était les professions libérales.
On rappelle, c'est 3 millions de Français, professions indépendantes.
Voilà, c'est ça. Et le dialogue, moi, je l'ai expérimenté. Entre ce que je représentais entre les organisations syndicales et l'UDP est toujours beaucoup plus intéressant qu'il l'était avec le MEDEF, qui était très idéologique, malheureusement. Avec l'agriculture aussi, ça se passait beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que s'il y a un accord qui est entre les organisations syndicales, l'ensemble des organisations syndicales et l'UDP, je pense que c'est un bon accord, et j'espère que les autres organisations patronales vont s'y rallier. Je voudrais ajouter, on parlera peut-être de l'assurance chômage après.
Oui, oui, on va en parler.
L'État n'a pas pu s'empêcher sur l'assurance chômage, là aussi, d'aller faire. J'allais dire hold-up.
Mais on va en parler après. Parce que si on reste sur le CETUP, et puisque vous connaissez bien l'UDP, Frédéric, est-ce que vous dites que c'est un coup de plume de la part du nouveau président? Parce que c'est quand même rare de voir l'UDP partir sur un sujet sans le MEDEF à ses côtés. Ou est-ce que c'est une question de conviction?
Je sais pas, mais on peut pas. Je pense qu'en tout cas, il y a depuis longtemps la volonté de manifester une autonomie et une spécificité de ce que sont les employeurs, c'était pas seulement des entreprises, de l'UDP, comme à un moment l'ont été les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on n'a pas toujours eu après 45, la parité, le système paritaire au sens où on l'entend, c'était effectivement organisation professionnelle de patrons, en fait, hein, d'employeurs et syndicats, mais c'était jusqu'en 67, trois quarts les organisations syndicales et un quart le patronat, comme la part dans la valeur ajoutée des salaires d'un côté et des profits de l'autre côté. En 67, on change et on fait 50-50, ce qui permet que si un seul syndicat lâche, ça devient du côté du patronat. Donc, mais en tout cas, l'idée qu'il y a un dialogue, oui, ça c'est très important, et de laisser faire le dialogue, c'est important aussi.
Alors,
et ça, c'est le Conseil national de la résistance qu'il a mis en place, notamment le grand ministre Ambroise Croizat. Notamment le grand Ambroise Croizat.
On rappelle l'idée de base de ce CETU, c'est en gros un sac à dos social, c'est-à-dire que les droits que vous avez acquis d'une entreprise, dans une entreprise, vous suivent quand vous changez d'entreprise et que vous allez dans la suivante. Est-ce qu'en soi, c'est une bonne idée ? Est-ce que la philosophie est bonne ?
Oui.
Ça va coûter plus cher aux entreprises.
Ça va, il y a une dépense, ça ne veut pas dire un coût, parce qu'il peut y avoir un avantage de l'autre côté. Avoir des salariés qui sont mieux...
Oui, bien sûr, mais
depuis longtemps...
Le résultat, c'est une dépense qui n'existait pas.
Depuis janvier 1996, j'avance avec d'autres l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation, avec une transférabilité des droits et avec l'idée que emploi-formation, ça devient décisif et que la sécurisation devient décisive. Donc le mot a fait florès, des fois pour faire le contraire de la sécurité, mais donc je pense que ça va dans le bon sens de ce point de vue-là aussi. Oui.
Nicolas Marquès.
Il y a beaucoup de packaging, hein, parce que la transférabilité des droits des jours de congés non pris, elle existe déjà dans le cadre des plans d'épargne retraite.
Ça n'existait pas, Nicolas, quand on changeait d'entreprise.
Mais si, parce que...
Non, puis tout le monde n'en a pas, surtout.
Si vous changez d'entreprise, vous gardez votre plan d'épargne retraite obligatoire ou collectif, et vous gardez vos droits.
Oui, d'accord, mais sauf qu'en effet...
C'est du capital accumulé,
Oui, mais Thomas a raison, parce qu'aujourd'hui, c'est 17% des salariés qui bénéficient seulement d'un compte épargne temps.
Tout le monde... Mais le sujet, c'est pas tant le compte épargne temps, parce que le compte épargne temps, quand on le regarde en tant que tel, c'est un très mauvais outil long terme. Le vrai intérêt pour les salariés, c'est d'avoir un PER obligatoire, un plan d'épargne retraite obligatoire ou collectif, et là-dedans, ils pourront mettre leurs jours de congé non pris, et ça, c'est des choses qui commencent à prendre. Donc, c'est vrai que le CETU simplifierait les choses pour ceux qui n'ont pas accès à ces outils-là, mais il y a déjà une forme de transférabilité qui fonctionne très très bien grâce à l'épargne retraite.
Ça va en tout cas à minima permettre à tous les salariés d'en bénéficier.
Je ne serai pas d'accord malheureusement. Mais
je ne serai pas d'accord. Parce qu'en réalité, le remède est pire que le mal, parce que passer par les marchés financiers pour ça, ça crée de la perversité. Par contre, effectivement, ce que je trouve intéressant...
Tout de suite, gros mot, Frédéric.
Ça a des effets pervers,
Alors lesquels ?
Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'affirmer ce principe de transférabilité, même dans un seul domaine, c'est très important. Par exemple, une préparatrice en pharmacie, qui est employée dans une pharmacie, c'est un petit commerce, une pharmacie, c'est typiquement les employeurs de l'UDP. Ils sont 1, 2, 3, 4.
Bon, bref.
Voilà, c'est réglementé, tout ça. Mais
particulier à la pharmacie.
Oui, mais bon, si elle change de pharmacie parce que la pharmacie perd, eh ben elle perd son ancienneté. Donc il y a tout un problème de transférabilité. Et donc le salaire est renégocié à chaque fois. Donc il y a quand même il y a une grosse différence.
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, le CETU, pour le coup.
Oui, mais là, c'est les employeurs là et les syndicalistes qui ont négocié.
Ah bah, qui ont pris de ce... Oui,
voilà,
c'est ça. Et alors, on le rappelle.
Mais donc, il y a un sujet, cotisation sociale derrière, bien sûr, pour financer ça. Donc, mutualisation par l'ensemble de la valeur ajoutée, mais peut-être ça peut permettre une meilleure efficacité.
Et alors on disait, ce CETU, c'est un peu le pendant de l'échec des partenaires sociaux autour de l'assurance chômage, et notamment, enfin plus précisément sur l'emploi des seniors. Sur cette question du chômage, là, le gouvernement a décidé d'aller ultra vite, par décret, on ne peut pas faire plus vite, avec des nouvelles règles appliquées dès le 1er juillet. Il n'y aura pas donc de nouvelles lettres de cadrage, ou de nouvelles concertations, ou de projet de loi, rien de tout ça, un décret. Est-ce que pour vous, Stéphanie Villers, c'est de bonne politique ? Est-ce que c'est une bonne méthode pour avancer ?
Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'en fait l'échec des partenaires sociaux, c'est d'avoir accordé qu'on supprime en fait les cotisations sur le chômage côté salarié. Vous savez qu'on ne paye plus, le salarié ne paye plus ses cotisations chômage.
C'est 2017, ça ?
Oui.
C'est la réforme 2017.
Donc, en fait, ça veut dire que les partenaires sociaux, ils n'ont plus réellement, les syndicats n'ont plus de poids, de pression vis-à-vis de l'État. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, l'État a tendance à maintenant vouloir faire absolument à la fois des réductions de dépenses et puiser dans les réserves. Alors, et ce qu'on voit en fait sur le système de retraite avec les Agirc-Arrco, pour autant, le salarié du privé continue à adhérer à ce système-là, cotise, donc qui fait que lorsque Agirc-Arrco dit non, vous touchez pas mes réserves, c'est pas facile pour l'État d'intervenir. Vous voyez, là, parce que justement, le salarié continue.
Oui, absolument. Alors, sauf que le petit bémol quand même, c'est que l'État ne va puiser que dans le surplus qui a été créé grâce à la réforme des retraites mise en place par le gouvernement.
C'est ce qu'il a voulu faire. Du mal à y aller.
Bien sûr, là, il y a une vraie pression, puisque les syndicats ont un pouvoir économique et un pouvoir financier, puisque les salariés cotisent. Là, l'erreur qu'on fait.
Une légitimité, disons.
Oui, voilà, c'est ça.
Légitimité.
En fait, ils représentent les salariés. Non, mais c'est vrai.
C'est la légitimité.
Alors, dans le régime général, ils se sentent chez eux.
C'est un pouvoir lié à la légitimité. Mais l'État peut passer derrière et imposer.
C'est ça l'échec. Les syndicats se retrouvent sans pouvoir réellement négocier à la marge, là. C'est que des... Je parle sur les indemnités, le système d'assurance chômage. Ouais. Donc, petit à petit, bon, il suffit, en fait, c'est comme l'esprit chinois, il suffit de laisser le temps faire. En tout cas, il n'y a pas... En fait, les moyens financiers peuvent peser dans la balance. Quand on n'a plus de moyens de pression financière, et on pèse de moins en moins.
Donc un paritarisme mis à mal.
Oui, un paritarisme mis à mal alors qu'il fonctionne bien. Alors, on a évoqué deux sujets. Il y a l'assurance chômage. L'assurance chômage, notamment, le sujet est financier. Il y a l'UNEDIC, qui est la structure financière, qui a été créée en 58 par les partenaires sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont excédentaires en moyenne de 7% sur 2022 et 2023. Donc, franchement, vu de l'État... le rôle de l'État, ça ne devrait pas être de dire je réforme les règles, je décide le nombre de mois...
Mais c'est peut-être grâce aux réformes depuis 2017 que l'UNEDIC dégage ses excédents.
En partie. Mais un vrai État stratège dirait à l'UNEDIC, vous avez une dette qui représente 60 milliards, elle est anormalement élevée, vous avez prévu d'ici 2027 de la réduire à 40 milliards. Normalement, une structure comme ça, elle devrait avoir des réserves. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des chocs économiques.
Oui, il y a des
signes. Et c'est une anomalie. Mmh. Et ça, c'est ce que devrait dire l'État. Au lieu de dire, ça sera X mois, et la règle évoluera comme si, l'État devrait fixer un cadre réglementaire. Et pareil sur les retraites, qui est l'autre sujet. Là, les partenaires sociaux, ils se sont organisés depuis 1947, et ils n'ont jamais fait de dette en matière de retraite complémentaire à l'Agirc-Arrco, et l'État devrait dire il faut augmenter les réserves parce qu'il y a une tendance au vieillissement qui pèse sur les comptes, et l'État fait tout le contraire. L'État veut piquer les réserves en prétendant que sa réforme, la réforme qu'il vient de faire, facilite les choses. Mais c'est faux, parce que tout le monde sait que les partenaires sociaux, ils avaient anticipé la réforme, ils avaient créé une sorte de bonus-malus qu'ils ont supprimé puisqu'ils doublonnaient avec la réforme, et il n'y a plus de cagnotte. Le problème de l'Agirc-Arrco, c'est pas qu'il y a 70 milliards qui représentent 2% des promesses qu'ils ont faites, c'est qu'ils n'ont en réserve que 2% des promesses qu'ils ont faites. Vous regardez par exemple la répartition aux États-Unis qui a été créée par Roosevelt dans les années 30. Il y a des mois de réserve. On ne parle pas de 2%
de
la promesse.
Oui, absolument. C'est un régime qui impose d'avoir 18 mois de trésorerie d'avance. Donc, de toute façon,
L'État devrait laisser faire les partenaires sociaux quand ils font bien, et notamment ils font très bien en termes de retraite, et il devrait faire son job. Parce que l'État, au lieu de donner la leçon aux partenaires sociaux du secteur privé, il devrait faire son job en tant qu'employeur. Et la première chose qu'il devrait faire, c'est s'occuper des retraites des fonctionnaires. Parce qu'il a promis des retraites généreuses, il a tout à fait le droit en tant qu'employeur,
mais il ne les a pas provisionnées. Il vient de les restreindre.
Il ne les a pas provisionnées, et comme il ne les a pas provisionnées, ça vous gèle toutes les embauches, ça vous limite toutes les embauches, ça vous limite toutes les augmentations de salaire, ça vous dégrade tout le rapport qualité-prix des services publics. Regardez, vous prenez un budget comme...
C'est d'allonger l'âge de la retraite qui limite les embauches.
Non,
n'importe quoi.
Frédéric, franchement,
c'est pas n'importe quoi. C'est d'allonger l'âge de la retraite de 2 ans. Frédéric, qui limite
comme l'État n'a rien fait pour les retraites de ses personnels,
il a retardé de deux ans.
Laisse Nicolas terminer.
L'État a fermé les caisses de retraite en 1853 et il paie les retraites par le budget. Et aujourd'hui, les retraites, c'est 30% de la dépense d'éducation, 29% de la dépense de justice, 28% de la dépense de police. C'est totalement anormal. L'État aurait dû provisionner ça et on aurait tous plus de profs, mieux payés
moins de postes vacants.
Oui, et des gens qui voudraient un meilleur service voudrez, public.
Tout ce que non, mais voudrez, ça, c'est le bon taux à la porte de Saint-Ouen.
C'est pas le bon taux à la porte de Saint-Ouen.
Si,
tous
si,
les États responsables font ça.
Compte que je mets là, il manque
alors,
toujours.
Alors, allez-y argumenter, bon. Frédéric Bocara. Non.
D'abord,
et après Stéphanie Villers.
C'est faux de dire que l'État n'a rien fait. Il vient d'allonger de 2 ans l'âge de la retraite.
Il n'a pas de caisse de retraite pour ses fonctionnaires.
Est en réalité beaucoup plus tôt et comme en France. Non, ce que je pense, il faut prendre les. Je prendrai les choses différemment.
En Allemagne, l'âge de départ à la retraite est plus tôt.
L'âge effectif, oui. Il est en moyenne.
Oui, il reste supérieur au nôtre.
Non, 63,9 en France et en Allemagne, d'après les chiffres d'Eurostat. L'âge effectif.
Alors, ce n'est pas les chiffres de PwC, mais ce n'est pas grave, allez-y.
Effectif. Mais moi, je voudrais souligner le fait que le Premier ministre nous parle de violence et il prend des décisions violentes. Donc, ça ne va pas. Donner l'exemple comme ça, dans
violente
une société.
D'un point de vue social.
De ne pas débattre.
Oui.
D'imposer par décret sans cesse, ça pose un problème. Sur qu'est-ce que c'est le débat, qu'est-ce
oui,
que c'est la politique.
Oui, mais quand on n'a pas de majorité, peut-on ne pas passer en force?
Ben oui.
Ah ben à ce moment-là, il se passe rien.
Non, on convainc, on peut. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait à l'envers. On fait à l'envers parce que le point qu'on met en avant, je reviens sur l'assurance chômage, parce que le sujet, c'est l'assurance chômage avant les retraites. Le problème qu'on a, c'est un problème de qualification insuffisante dans le pays et de conditions de travail qui découragent. Or, tout ce qu'on fait, c'est dire aux gens, on va raccourcir la durée d'indemnisation, donc baisser l'indemnisation. Donc, premièrement, on va...
Ça, on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas. Apparemment, ça va être les conditions d'accès qui vont être durcies.
On va durcir les conditions, même chose.
Et... Ah oui, ça va être durci, ça. Oui. Oui, on ne sait pas comment, mais ça va être durci.
On ne va pas toucher au montant.
A priori.
Si on fait la somme sur plusieurs mois, on touche au montant de ce que les gens touchent, pas mensuellement, mais s'ils le touchent moins de mois, ça fera moins de montant. Et de toute façon, l'idée,
oui, donc
c'est de dépenser moins.
La durée.
Oui. Donc, le problème, c'est d'arriver à mettre des gens dans des formations longues. Le problème, c'est d'anticiper les transitions.
Mais ça, c'est l'objet de France Travail, Frédéric.
Mais France Travail, le président de France Travail dit, ça va pas, les 2,5 milliards que vous avez promis de piquer à l'UNEDIC pour moi, vous me les donnez pas. Et donc, je vais pas y arriver. Il a fait une déclaration dans ce sens-là, vous l'avez vu comme moi.
Oui, tout à fait.
Mais on a besoin de former. J'insiste, c'est pas seulement le boulot de France Travail. C'est le boulot d'une formation professionnelle construite, publique, pas simplement des petits stages de ci, de là. Pour former un soudeur, il faut 10 ans. Dont 8 ans de formation initiale et 3 ans de stage. Pour former des profs, pour former des soignants. Parce que c'est là-dedans qu'il y a des demandes. Chaudronnier, c'est pas seulement pour les chaudrons du druide panoramix, hein. Les locomotives, c'est un chaudron, par exemple, hein. Même les TGV, c'est des chaudrons. Donc, il faut tout ça. Et donc, on pourrait mobiliser le pays pour cette transition comme ça. Et donc, dire effectivement, il y a quelque chose. Et là, à mon avis, il pourrait trouver des majorités. Il y a un grand soir à faire sur le lien formation professionnelle non-emploi, que j'appelle pas chômage. Et là, on pourrait emmener et des entreprises et de nouveaux financements. Je pense que c'est ça l'enjeu.
On marque une pause, le message est passé.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business. La pause était très animée. Nous sommes avec Stéphanie Villers, Nicolas Marques et Frédéric Bocara. On parle maintenant du nouveau pacte de stabilité, puisque ça y est, les députés européens viennent d'adopter les nouvelles règles budgétaires européennes. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, parce que ça serait trop compliqué et on risquerait de perdre tout le monde. Mais pour faire simple, ces nouvelles règles, elles doivent permettre, en tout cas, aux pays, un, d'avoir des trajectoires individualisées de rétablissement de leurs comptes publics, des règles plus crédibles pour y parvenir, et de pouvoir investir davantage. Est-ce que le compte y est, Frédéric Bocara, avec ce nouveau pacte de stabilité?
Le compte, ça veut dire qu'il fallait faire plus ou moins. Non, c'est le sens qui pose problème.
Alors justement, est-ce qu'il y a plus de sens dans ces nouvelles règles?
On a voulu, effectivement...
Parce que les anciennes, elles n'étaient pas respectées.
Voilà. Et on a voulu mettre du réalisme.
Oui.
Mais en réalité, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. La logique, c'est il faut moins dépenser, tout en protégeant les investissements, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème. Hein? Même si Louis Roy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, hier, il dit faut arrêter, faut baisser, etc. Faut pas augmenter les dépenses.
Non, il dit en France, il faut stabiliser les dépenses.
Oui, c'est ça. Faut arrêter d'augmenter les dépenses.
Oui,
c'est ça. Allez dire ça en Seine-Saint-Denis avec les enseignants. Hein? Allez dire ça dans les hôpitaux.
Non mais attendez, il n'a pas dit qu'il fallait couper.
Attendez,
toutes les dépenses
d'amis. Attendez, je ne vous demande pas de défendre le roi de Gallo.
Je ne suis pas là pour défendre.
Voilà, je dis simplement que on voit bien qu'il y a un problème dans ce prétendu réalisme. L'énorme quantité de dépenses dont on a besoin pour développer les services publics, c'est de l'emploi. Or, on raisonne à l'ancienne avec l'investissement matériel. Mmh. Il faut des pré-recrutements dans la fonction publique. Il faut former et prendre un contrat d'embauche avec les gens pour qu'ils puissent travailler. Que ce soit, je reviens, je le répéterai malheureusement pendant longtemps encore, les profs, les infirmières, mais peut-être aussi les cheminots du fret ou du transport voyageur, on a besoin de former. Parce que si, par exemple, on dit on fait une exception pour l'investissement et qu'on fait des réseaux ferroviaires de fret et des trains et qu'on n'a pas de conducteurs, problème. Si on construit des hôpitaux et qu'on n'a pas de soignants,
problème. Non, mais on est tous d'accord avec ça.
Mais oui, mais donc, il faut d'autres règles qui permettent de développer les dépenses autrement, à 0%. Parce que, et je finis là-dessus, le principal problème de la dette, ce n'est pas son existence. Ça, c'est la vision des années 30 qui a montré son échec. Et
qu'elle son coût, c'est le coût de la dette, le problème.
C'est les charges d'intérêt de la dette. Et l'Allemagne, qui a moins que la France, elle paye autant d'intérêts, un peu plus que la France.
Oui.
Elle paye plus de 60.
Non, mais c'est pas autant. Que ça. C'est aussi les raisons pour lesquelles
la
on s'endette.
La France paye 50 milliards d'intérêts.
Oui.
Et l'Allemagne paye 60 milliards d'intérêts de dette.
Ouais.
Et comme vous le dites, c'est comme le cholestérol, la dette. Il y a de la bonne et de la mauvaise. Donc la bonne, c'est celle qui permet de développer, qui va créer de la valeur ajoutée, qui va faire que par la croissance, par le développement de la valeur ajoutée, ou par le développement des potentiels d'efficacité pour les entreprises, parce que les services publics servent à ça, on va pouvoir se développer. Et donc, il ne faut pas seulement mettre des exceptions pour les investissements, mais pour tout le développement des services publics avec leur emploi-formation.
Stéphanie Villers, comment est-ce que vous regardez ces nouvelles règles ?
On n'est pas d'accord, là.
Non, c'est du débat de House, c'est normal.
Bon, en fait, on va tout le temps redonner les chiffres du poids de la dépense publique à plus de 56%. On est quand même le pays qui dépense le plus avec et avec en face un taux d'imposition sur le PIB qui est le plus élevé des pays de l'OCDE.
Donc c'est de la mutualisation.
Attendez, j'ai droit à mon petit bout.
Oui, c'est vrai, on entend ce que vous dites, on l'entend tous les jours.
Attendez, chacun a le droit de
s'exprimer.
C'est que pour vous.
En quoi c'est mauvais la dépense publique? Pourquoi c'est mauvais que vos enfants aillent à l'école publique?
Non, mais sinon, ça s'appelle monologue. Donc là, c'est un débat.
Stéphanie. Je comprends toujours pas la cause.
Et
Ça
fait qu'on a des déficits. L'année dernière, on a eu un déficit de 5,5% du PIB, qui était quand même une grosse surprise, parce qu'il n'y a pas eu de choc supplémentaire. On sait qu'il y a pas. Avant, il y avait une crise sanitaire, il y a eu une crise énergétique. Là, on s'est retrouvés sans choc. Et on fait partie des plus mauvais élèves de la classe avec l'Italie, avec un déficit aussi élevé. Or, lorsqu'on a un déficit, on s'endette et on s'endette auprès des marchés financiers. Et en fait, quand on s'endette auprès des marchés financiers, on dépend du bon vouloir des créanciers. Et donc, on ne peut pas fermer les yeux comme si on n'avait rien à craindre. Si on s'autofinançait, une entreprise qui s'autofinance, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Lorsqu'on dépense, on dépense trop et on dépend des marchés, on est obligé de faire attention. D'autant qu'on voit bien que le gouvernement attend très fébrilement les résultats
des agences de notation
qui arrivent vendredi. Ça montre bien en fait qu'il y a une vraie menace et un vrai risque.
Oui, sauf que Stéphanie, quand on regarde l'histoire économique de la France, jamais aucune dégradation des agences de notation vis-à-vis de la dette française n'a posé aucun problème.
Oui, mais on ne peut pas dire comme c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Je vous rappelle qu'en 2022, en octobre 2022, Liz Truss arrive Premier ministre, fait un budget avec une baisse massive d'impôts qui a priori peut plaire aux marchés financiers, les marchés financiers sont plutôt libéraux dans leur esprit. Il n'empêche que c'est retoqué. Derrière, Liz Truss démissionne, elle est à peine restée un mois et le Royaume-Uni est obligé de présenter un budget de rigueur. Donc, on ne peut pas faire comme si la menace n'existait pas. On ne peut pas juste d'un revers de main dire de toute manière, on est financé facilement. Pourquoi ? Parce que la BCE a agi pendant toutes ces années Covid, que l'Allemagne était d'accord parce qu'elle aussi a subisé le Covid, mais maintenant, on voit qu'il y a un changement de philosophie. On sait aussi qu'on est obligé de construire l'Europe pour faire face aux deux mastodontes qui sont les États-Unis et la Chine, que toute seule, la France n'arrivera pas à faire grand-chose, et que l'Allemagne, lorsqu'elle voit en fait un pays aussi dépensier, qui n'est pas capable de faire un seul budget de rigueur, mais on n'est pas à atteindre les 3%, on est en train de se dire que peut-être la France n'arrivera jamais à atteindre les 3%, sachant que l'ensemble
exemple, des autres pays d'Europe y arrivent. Donc, on ne peut pas construire l'Europe si la France, en fait, arrive avec ses...
Oui, il y a nous et l'Italie.
Ses budgets.
Non, l'Italie, elle a un excédent primaire.
Oui, alors attendez, parce que je vois que Nicolas Marquez, pour ne pas déroger à la règle de sa présence sur ce plateau, a un graphique à nous partager.
Donc, moi, je vais abonder avec...
Pour ceux qui nous regardent à la télévision.
Oui. Ce que disait Stéphanie, parce qu'on dit de temps en temps, on n'a jamais eu de problème de notation de dette majeure, et on n'a jamais fait défaut. OK, mais historiquement... dans les années 90, on avait moins de dettes que les pays européens. Moi, je me souviens de mes profs de finances publiques qui me disaient à Dauphine, les règles de Maastricht, c'est nous qui les avons fixées, nous, les Français.
Avec l'Allemagne.
On les reste. Non,
les Français. La doxa, c'était de dire que c'était une victoire française.
C'était une victoire française.
Oui, oui. C'était la doxa
dominante. Et on les respecterait toujours. Et c'est vrai que à l'époque, on était à moins de 60% du PIB en dette. Aujourd'hui, on est à 110. On est largement...
On est à 112, oui.
À 111.
À peu près comme les Américains.
110,
c'est le dernier chiffre qui vient tout juste de sortir. Et en plus, l'INSEE a révisé les bases. C'est pour ça, Thomas. Et on est bien au-delà de l'Europe. L'Europe est en moyenne à 89%. Donc, on a un vrai sujet. Et pour reboucler sur ce que disait Stéphanie...
Oui, la dette de la zone euro a baissé de 2 points, la Suisse, hier. De 2 points d'une année sur l'autre.
Notre dette,
déficit, à cause du PIB.
Il finance des dépenses courantes. Il finance pas de l'investissement.
Les dépenses de
Ça peut être des dépenses d'avenir, des dépenses courantes.
J'ai rien à redire, moi, en tant qu'économiste, quand on fait du déficit, parce qu'on baisse les impôts de production, et au début, ça coûte, mais ça relance l'économie, ça relance l'industrie. J'aurais rien à redire si l'État faisait plus de déficit et plus de dettes pour provisionner les retraites des fonctionnaires, ce qui lui ferait économiser 50 milliards d'euros par an. Le vrai problème, c'est qu'il dépense pour... Il s'endette pour payer les dépenses courantes. Et ça, c'est un vrai problème. Quand un ménage s'endette pour acheter son logement, ça s'appelle un investissement et c'est un investissement d'avenir.
Oui, c'est une dépense d'avenir.
Quand il s'endette pour payer les pâtes ou la sauce tomate qu'il va mettre dans les pâtes, c'est pas un investissement d'avenir et ça, c'est un problème. Et on a un
État, il y a une dette qui fait défaut.
Qui nous endette pour payer les dépenses courantes, c'est totalement anormal.
Je vais juste rajouter un point, c'est que l'année dernière, en fait, l'indexation des retraites sur l'inflation, ça a coûté 18 milliards de plus sur le budget. Et même là, c'est des choix politiques et c'est pas des choix économiques. Derrière, en fait, les salariés n'ont pas été, à part le SMIC, ont pas vu leur salaire indexé sur l'inflation. Donc en fait, il y a des décisions qui sont purement politiques.
Les entreprises ont beaucoup augmenté les salaires quand même.
Qui coûtent
en moyenne à peu près.
Mais le rattrapage.
A posteriori, il y a une petite perte.
Là, c'est le rattrapage. Là, c'est fait au même moment.
Ça coûte
18 milliards. Hein, c'est pas l'épaisseur du trait.
Alors, je vais pas être d'accord exceptionnellement avec Stéphanie.
Vous avez le droit.
On a le droit.
C'est-à-dire que quand l'AGIRC Arrco ou les RAFP, le fonds de pension des fonctionnaires, augmentent les retraites, ils ont des réserves et ils ont des provisions. Moi, je suis pas gêné. Par contre, je suis gêné quand l'État augmente les retraites des fonctionnaires. Il n'y a toujours pas de caisse de retraite parce qu'il l'a fermée en 1853. Et quand l'État augmente les retraites du régime général, qui est 2 années sur 3 en déficit, parce que là il n'y a pas d'argent, donc ça creuse la dette. Mais si les retraites sont bien provisionnées, ben pourquoi pas les augmenter?
Parce que vous avez raison, c'est parce que la dette est détenue par les marchés financiers que ça pose problème. Mais je l'explique dans ce livre, Une autre Europe contre l'austérité pour le progrès social en coopération, un autre euro, publié au temps des cerises, déjà en 2014. On peut créer un fonds européen qui prend les dépenses publiques des États, qui reçoit la création monétaire de la Banque Centrale Européenne et qui va financer à 0% les dépenses publiques des États. On peut le faire. C'est possible à l'intérieur des traités européens. Et l'Allemagne en a autant besoin que la France. Qu'il faut ouvrir le débat. Elle ne veut pas. L'Europe, c'est nous. Donc il faut pousser des propositions. Il faut oser. Comme dirait De Gaulle, on ne peut pas être dans les conformismes existants.
Mais la France,
les Allemands, par exemple, ils disent qu'il nous manque 100 000 soignants. Presque comme nous. Ils disent qu'il nous manque 14 000 enseignants. Donc, les Allemands aussi ont besoin de dépenses. Parce que derrière ça, l'État, ce n'est pas un ménage. L'État, il peut faire des dépenses de développement. Et j'insiste, les dépenses que vous dites courantes, les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, les pré-recrutements de fonctionnaires, c'est des dépenses d'avenir. Les dépenses pour la recherche, les chercheurs, c'est des dépenses d'avenir.
La dette,
c'est
pas de la consommation. On l'a fait avec des dépenses courantes, Frédéric.
Oui, mais vous regardez dans le rétroviseur.
De la
consommation.
C'est pas dans le rétroviseur,
c'est de la dépense d'avenir. Ce n'est pas de la dépense stérile, au contraire. La recherche, nous en avons besoin.
Ça fait 40 ans.
L'éducation, nous en avons. Mais non.
Mais si.
Plus d'un quart, près de la moitié du budget de l'État dans des aides aux entreprises avec comme condition de faire des bas salaires.
Non, mais moi, je me souviens de 80%
c'est
de
ça quand
Jean-Bac.
Même.
Oui, ça se traduit pas dans la croissance.
Qui disait
voilà. Et donc, ça ne se traduit pas dans la croissance, alors que les dépenses
qui permettent de développer le potentiel de croissance, mais Marcus le dirait, elles permettent de préparer l'avenir. Donc il y a tout un problème de ne pas se mettre comme idée l'épargne préalable, mais la possibilité d'une dépense qui va créer des richesses. Et c'est là-dessus qu'il faut de la démocratie, c'est là-dessus qu'il faut de la visée du contrôle et des outils communs avec nos partenaires européens, parce qu'effectivement, avec la Chine et les États-Unis, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a un problème dollar aussi derrière.
Mais alors, justement, d'accord. Attendez, parce que j'ai une question très précise à vous poser sur ce nouveau pacte de stabilité budgétaire. Les dépenses publiques, à partir de maintenant, vont être évaluées selon le concept des dépenses primaires, c'est-à-dire en excluant les taux d'intérêt ou les effets fiscaux.
Les charges d'intérêt, vous
voilà, dites. Exactement. Est-ce que ça va permettre à la France d'afficher un redressement qui pourrait être en partie virtuel de ses comptes publics?
Un meilleur pilotage?
Ben non, parce qu'en en fait, on est incapable d'équilibrer nos comptes primaires. C'est notamment parce qu'on n'a pas remis en ordre nos finances publiques.
C'est toujours une vision comptable. Il faut les évaluer en fonction de ce qu'elles vont permettre d'apporter à l'économie.
Une des raisons pour lesquelles on n'est pas capable d'équilibrer nos comptes, c'est qu'on subit en France l'effet du vieillissement. Alors, il existe aussi en Allemagne, il existe aussi en Italie, il existe en Espagne. Tous ces pays n'ont pas provisionné les dépenses de vieillissement. Et plus on dérive, plus c'est problématique.
Les provisions c'est le contraire de ce qu'on a fait pour sortir des difficultés en 44.
Vous allez aux Pays-Bas, les dépenses de retraite sont provisionnées et les comptes publics sont structurellement équilibrés. Et donc, tant qu'on ne fera pas ça, on aura des comptes qui seront déséquilibrés. Je vous donne un chiffre. Les dépenses de personnel de l'État, c'est 160 milliards. Quand on les regarde, il y a 60 milliards pour payer les retraites des anciens fonctionnaires et 100 milliards pour payer les retraites.
Mais c'est 60 milliards pour vivre l'économie aussi.
Mais ces 60 milliards ne font pas vivre l'économie.
Ah bon ?
C'est 60
Ah bon ? Et la silver économie des retraités ? Où elle va, celle-là ?
Frédéric,
ça c'est franchement, on peut pas les rendre sous.
Non.
Et de Keynes et de Hayek.
Alors Nicolas, Stéphanie après.
Je suis très c'est clair.
Non, faut pas dire n'importe quoi. Les 60 milliards que consomment les retraités, ça compte pas dans l'économie.
Ce sera pas le vieillissement.
Non, bien sûr. Mais là c'est du charlatanisme encore une fois.
Non, c'est pas du charlatanisme. C'est ce que font tous
les 60 milliards de consommation des personnes âgées, des retraités.
C'est 60 milliards d'impôts. Donc,
oui, c'est irresponsable. Vous avez raison, ce que vous dites est irresponsable.
Et ce qui crée la richesse, c'est quand on épargne, parce que ça allège le
financement. Ça crée pas de richesse, l'épargne.
Mais Frédéric,
ça prend de la richesse sur l'existence. Vous croyez, c'est votre dogme, que l'épargne préalable va permettre demain de faire. Ça crée pas de richesse.
Frédéric, vraiment.
On est d'accord que ça crée pas de richesse en soi. L'épargne. C'est une prise sur la richesse existante, l'épargne. C'est faux que ça crée de la richesse. Ce qui crée de la richesse, c'est une dépense, un investissement.
Frédéric, tu raisonnes, on doit
s'en aller. On passe la balle, Frédéric.
Alors, Stéphanie veut parler, elle n'a pas beaucoup parlé, je lui passe la balle, mais clairement, l'épargne crée de la richesse.
Non, mais
passe-lui
la balle alors.
Moi, je conserve pendant une minute, hein, vous ne m'interrompez pas, parce que moi, je n'arrive pas. Donc, en fait, on voit bien que le problème, quand même, c'est tout ce qui est les dépenses de retraite et le vieillissement de la population, en fait, qui pèse sur
les... Prends mes lunettes.
sur les comptes publics. Donc, et puis, en fait, ce qu'on oublie, c'est que à Gircarco, vous me dites, effectivement, il y a une grosse réserve de 70 milliards, mais elles sont placées. Ils sont placés où, ces réserves ? Eh bien, sur les marchés des capitaux. Donc, en fait, le système géré par les partenaires sociaux est un système de retraite par capitalisation qui ne le dit pas. Hein. Et donc, en fait, c'est comme un gros mot. Mais oui, j'ai travaillé dedans, je sais bien. Donc, cet argent-là est replacé sur les marchés financiers. L'épargne, ça ne sert pas à rien, ça finance la dette publique, finance les entreprises.
Attendez, on laisse Stéphanie terminer.
On ne parle pas, on ne dit pas la vérité.
Oui, effectivement, vous dites des choses déformées.
Là, j'ai pas l'habitude, hein, franchement.
Attendez, on vous écoute, Stéphanie, on vous écoute.
Mais attendez.
Après, vous répondrez.
Frédéric, Stéphanie Villard, c'est terminé. Attendez, Stéphanie, allez.
Je veux que les gens retiennent que notre système de répartition, qui effectivement est efficace et qui marche bien, a toute une partie de ses réserves qui est placée sur les marchés financiers. Et ça, c'est de la capitalisation. Donc, on a déjà un pas sur la capitalisation. Donc, quand on a une dépense publique qui pèse à cause des retraites, il faut quand même ouvrir le débat et essayer d'alléger ce poids des cotisations et de dire il y a une partie qui peut être prise par le salarié à travers l'épargne retraite et donc la retraite par capitalisation.
J'ai une question pour finir.
Bon, on a bien compris ce que vous dites. Vous dites on voit que, parce que vous dites 60 milliards pour les retraites. Ça, c'est vous qui voyez que. Mais on peut dire aussi, On voit que 50 milliards sont payés pour les intérêts, 50 milliards et 60 milliards, c'est à peu près la même chose. Donc on pourrait dire que le problème, c'est qu'on n'emprunte pas à 0%. Donc vous voyez qu'il faut ouvrir les choses. Et l'épargne, je maintiens, c'est une prise sur l'existant, ça ne fait pas de la croissance. Ça peut financer des choses pour demain, mais ce n'est pas de l'investissement nécessairement. Quand c'est placé sur les marchés financiers, c'est rarement de l'investissement. Chacun le sait. Mais vous, dans les manuels d'économie, on vous embrouille suffisamment pour que vous perdiez la réalité. Je connais, j'ai fait moi aussi des diplômes d'économie. Mais alors qu'une dépense d'avenir, ça peut faire de la croissance.
Non, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on a forcément tort.
Il ne faut pas nécessairement de la croissance, mais il faut ouvrir l'esprit pour voir.
Ah bah, alors vous avez un esprit qui n'est pas très ouvert ce soir.
On va dézoomer, de l'Europe.
Je l'ouvre pour vous dire, il faut voir le type de dépense.
Là, on voit... Et on se passionne et on se déchire pour voir comment mieux gérer nos finances publiques en Europe. On a l'impression que les Américains et les Chinois ne se posent pas du tout la question. Est-ce qu'on est les seuls sur la planète à se soucier de nos comptes publics ?
En 1 minute 30.
En 1 minute.
Alors il faut rappeler que les Américains. Rappeler les faits. Les Américains, ils ont un taux d'endettement par rapport au PIB. Aussi élevé, un peu plus même que la
plus,
France.
Plus élevé
c'est 120%.
Que la France.
Ouais. Non. Plus que la France.
Et ce n'est pas mais un sujet pour eux.
Vous êtes, voilà, alors, Nicolas, Nicolas. Vous êtes en train de vous faire avoir. Parce qu'aux États-Unis, quand on regarde la dette publique, on intègre la promesse faite aux fonctionnaires. Quand on regarde la dette publique en Europe, on n'intègre pas les promesses faites aux fonctionnaires. Donc quand on corrige cette erreur, c'est la France qui est plus endettée que les États-Unis. Frédéric ?
Ok,
c'est clair.
Je ne t'ai pas dit non, je vais regarder.
Stéphanie Villers.
Notre monnaie à 20 ans, l'euro, c'est une toute jeune monnaie. Et donc, en fait, pour lui donner en fait, sa stabilité et qu'elle soit admise par tous, il a bien fallu avoir des critères de rigueur qui pouvaient laisser penser que en fait, cette zone monétaire était une zone de stabilité.
Crédible.
Voilà, et crédible. Et donc, on n'est pas les États-Unis, il faut se dire, on n'est pas la première puissance mondiale. On n'a pas cet avantage-là quand, effectivement, la première puissance mondiale peut vivre à crédit. C'est-à-dire que tout le monde leur prête de l'argent.
Et bien voilà qui aura mis d'accord tout le monde.
Bon.
Oui, la question, c'est le dollar. Et comment on fait par rapport au dollar pour pouvoir se développer
Oui, parce qu'on n'a pas le temps de répondre à cette question.
Non, le problème posé, c'est le FMI. Il faut une mutualisation mondiale des dépenses de développement. Parce que nous n'avons pas parlé du Sud, qui lui est étranglé aussi.
Donc c'est nous.
Et on ne peut pas faire sans le Sud.
Alors, allez, c'est
comme après 45.
C'est là, on va passer à l'extra time, aux arrêts de jeu, les coups de cœur et
coup de gueule en 30 secondes. Alors, Frédéric Bocara, 30 secondes. Hein,
ouais. Alors, un coup de cœur pour les salariés de la SNCF qui ont réussi effectivement une négociation gagnant-gagnant, parce que je pense que pour effectivement organiser des départs en retraite plus tôt, ce qui va permettre d'assainir la situation sociale dans en partie. Peut aller vers un assainissement de la situation sociale de l'entreprise, des recrutements de jeunes et une meilleure attractivité. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir, même si derrière se pose la question des charges financières et du poids du coût du capital sur la SNCF. Et est-ce qu'il va y avoir effectivement des remplacements de départ en retraite par des embauches de jeunes?
Voilà, et vous avez respecté le timing imparti. Bravo Frédéric. Stéphanie, c'est à vous.
Moi, c'est pour rester sur le même thème. Là, les chiffres, effectivement, de la dette sont tombés. En Europe, en fait, la dette globale est en train de baisser. On est passé de 90 à 88. Et puis, il y a nous, les Français, en fait, qui, eux, enfin, on reste quand même à des niveaux nettement supérieurs, hein, plus de 15 points de PIB avec 110% du PIB. Et donc, on est pourtant la deuxième puissance de la zone euro, mais on est véritablement le mauvais élève et on risque d'être mis à l'écart.
On est la deuxième puissance économique, mais le deuxième en partant de la fin sur la dette. Bon. Troisième, pardon, avec Grèce et Italie. Mais deuxième sur le déficit. Nicolas Marquez, pour finir.
Coup de cœur pour la Banque de France. Elle a promis 13 milliards de retraites et elle avait 14 milliards de côté. Donc elle a trop d'argent par rapport aux retraites qu'elle a promises. Donc ça lui a permis de réévaluer les retraites sans faire du déficit. Et ça lui a permis l'an passé de rendre 800 millions à l'État. Depuis 2020, la Banque de France, elle a rendu 2,6 milliards à l'État parce qu'elle a trop d'argent par rapport aux retraites qu'elle a promises. Donc Frédéric, il faudra regarder ces chiffres parce qu'il faut vraiment changer.
Le boulot de la Banque de France, c'est de permettre la croissance par son refinancement du crédit. Elle le fait très mal. Donc
si l'État faisait comme la Banque de France,
qui manque.
Si l'État faisait comme la Banque de France, il économiserait 50 milliards par an.
Ouais.
50 milliards.
Peut-être que la Banque de France, elle manque 100 milliards de croissance parce que son refinancement des banques.
Il faut regarder tous les chiffres.
On ne relance pas le débat. Il est terminé.
Merci. L'émission est déjà terminée. Regardez, ça clignote de partout. Le stade va bientôt s'éteindre. Merci à tous les trois, Frédéric.
Frédéric Bocara, Stéphanie Veller et Nicolas Marquez. Et merci à vous, Audrey.
Mais merci à vous, Thomas. L'émission est à retrouver, évidemment, comme tous les soirs. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est sur toutes les plateformes, sur bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures.
Absolument. Dans un instant, toute l'actu de la tech. Tech & Co en direct avec Frédéric Simotel. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.